Il est 7h.
Ça fait des années qu'elles se préparent, en fait. Elles veulent dire les choses, elles veulent dire ce qu'elles ont ressenti, mais je sais que ça va être douloureux et difficile.
La douleur, mais aussi la nécessité de témoigner. Les victimes de Charlie Hebdo sont appelées pour la première fois à la barre. Des suspicions de Covid dans plus de 200 EHPAD en France, vigilance de rigueur, mais ces établissements savent désormais gérer le risque. Les Bleus vont devoir se passer de Kylian Mbappé ce soir contre la Croatie. Il est positif au Covid et va rester confiné pendant 8 jours. Une première avancée dans l'enquête sur les mutilations de chevaux avec l'arrestation d'un suspect dans Lyon. Nous suivrons une patrouille de gendarmes spécialisée dans la surveillance des chevaux. Et puis c'est peut-être la pharmacie du futur, 2000 mètres carrés dans le centre de Paris, mais aussi des salles de consultation, notamment pour les tests Covid.
Juste après ce journal, Boris Johnson veut rediscuter l'accord de Brexit. C'est un risque pour nos économies des deux côtés de la Manche. L'éclairage éco de Nicolas Barré à 7h15. La grâce accordée aux assassins de Jamal Khashoggi. Dans le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20 et notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le Covid s'invite à nouveau chez les footballeurs. C'est maintenant au tour de Kylian Mbappé d'être testé positif. Logiquement, il est forfait pour la rencontre de ce soir France-Croatie en Ligue des Nations.
Et c'est le quatrième cas en équipe de France après Pogba, Aouar et Mandanda, malgré toutes les précautions prises par l'encadrement, Cyril de la Morinerie.
Il y avait déjà de l'inquiétude au sein de l'équipe de France après le test positif au Covid-19 de Steve Mandanda. Le départ soudain de Kylian Mbappé, pour les mêmes raisons, ne va pas rassurer les Bleus, d'autant que l'attaquant a bien participé à l'entraînement hier soir au Stade de France. Le Français, qui est asymptomatique, avait passé toute la journée de lundi avec ses coéquipiers après avoir réalisé son test à l'hôtel à Enghien-les-Bains. Les résultats sont tombés hier soir et Kylian Mbappé a regagné aussitôt son domicile. Les autres joueurs de l'équipe de France sont eux négatifs. Désormais, les choses sont claires. Kylian Mbappé, qui devait de toute façon débuter sur le banc, ne jouera pas. Le Français avait reçu un coup à la cheville samedi soir. Et Didier Deschamps souhaitait le préserver si possible pour lui permettre de jouer jeudi prochain à Lens avec le PSG. Mais Paris va devoir aussi apprendre à évoluer sans sa star. Dans un effectif amputé de 7 joueurs positifs au Covid-19, Kylian Mbappé va se mettre à l'écart pendant 8 jours, comme le stipule le règlement de la Ligue, et ne pourra pas non plus aider l'équipe parisienne dimanche prochain lors du choc face à l'Olympique de Marseille.
France-Croatie, ce soir à huis clos au Stade de France, coup d'envoi à 20h45. Didier Deschamps pourrait faire jouer le milieu rennais Eduardo Camavinga, 17 ans et 9 mois. Il deviendrait ainsi le plus jeune joueur français en bleu depuis l'après-guerre.
Il battrait le record de Kylian Mbappé, en l'occurrence. Le Covid chez les footballeurs, mais aussi chez les personnes les plus âgées. De nombreux cas ont été détectés dans des maisons de retraite ces derniers jours, en Aveyron, en Gironde ou en Corse.
Plus de 200 foyers de contamination potentiels étudiés à l'heure actuelle, mais la bonne nouvelle, c'est que les EHPAD savent désormais bien mieux lutter contre la propagation du virus. Jean-Gabriel Bourgeois.
Pas d'inquiétude à ce stade, martèlent les autorités de santé. Même si l'on observe une multiplication des foyers épidémiques dans les EHPAD, les règles sont les mêmes depuis le déconfinement. Les visites sont permises, mais encadrées dans des plages horaires spécifiques, dans des zones dédiées, rarement en chambre, avec port du masque, gel hydroalcoolique à l'entrée, voire prise de température. Les directeurs d'établissement ont la possibilité de reconfiner ou de suspendre les visites en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Un contexte qui inquiète Florence Arnaise-Maumet. Elle est déléguée générale du CINERPA, le premier syndicat des EHPAD privés.
Nous sommes vraiment au milieu du guet. Octobre arrive avec les premiers cas de grippe. Cet hiver, nous allons avoir la difficulté majeure d'avoir à lutter tant contre le Covid que contre la grippe. Et c'est là qu'il va falloir être extrêmement vigilant.
Vigilance également pour des personnels épuisés, mais qui sont à présent mieux équipés et mieux formés en cas de nouvelle vague du virus. Dernier point de tension concernant les tests, les EHPAD se plaignent des délais encore trop longs pour obtenir les résultats.
Et puis en milieu scolaire, 28 établissements et 262 classes sont actuellement fermées à cause de cas de Covid. Chiffre donné hier soir par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation confirme que des masques transparents vont être distribués, notamment à certains enseignants maternels.
Europe 1, 7h05, et c'est une nouvelle journée très forte, émotionnellement, qui se prépare devant la cour d'assises spéciale au procès des attentats de janvier 2015.
Oui, après le récit d'un enquêteur hier, les photos, les vidéos de la tuerie de Charlie Hebdo, place aujourd'hui à la parole des survivants. Ils vont tenter de raconter l'heure 7 janvier. Chloé Triomphe.
C'est le temps des victimes de Charlie Hebdo. Ces moments consacrés, comme dans chaque procès d'assises, à l'audition de ceux qui ont vécu, ou plutôt survécu, ainsi qu'à leurs proches. Quasiment toutes les victimes ont prévu de s'exprimer, comme en témoigne l'un de leurs avocats, maître Antoine Comte.
Je crois que ça fait des années qu'elles se préparent, en fait. Je crois qu'elles se préparent parce qu'elles veulent... Elles veulent dire les choses, elles veulent dire ce qu'elles ont ressenti, mais je sais que ça va être douloureux et difficile. C'est important parce qu'on veut essayer non pas de supprimer la douleur qui sera toujours là pour les uns et les autres, mais on veut essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Comment on survit dans le manque, comment on survit dans l'absence, comment on survit dans la violence qui est encore là, voilà.
Certaines parties civiles sont déterminées à témoigner depuis le début, d'autres ont hésité jusqu'au dernier moment. Certaines ont préparé un texte sans être sûres de s'y tenir. Leurs auditions sont prévues sur plusieurs journées.
Chloé Triomphe.
Pour la première fois depuis le début de la vague d'attaques contre des chevaux, un suspect est en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 50 ans, arrêté dans le Haut-Rhin grâce au portrait robot d'un suspect accusé de sévices sur un cheval et deux poneys. L'homme aurait déjà commis ce genre d'acte en Allemagne.
Et si les rondes de propriétaires se multiplient, les gendarmes sont évidemment mobilisés, comme en Bretagne, où une unité a été spécialement déployée pour surveiller les élevages et centres équestres. François Coulon a passé une partie de la nuit avec une patrouille de cette unité un peu particulière.
Ils sont trois gendarmes à traquer de nuit des agresseurs de chevaux dans le secteur de Béton, à leur tête le major Vanneville.
On ne sait pas où on va, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Une arme à feu, on s'attend à tout. Hein. Ils sont peut-être plusieurs, certainement.
Première étape, le club de Courforest de Nadine Housset.
Je me suis équipé. Hein. Il y en a qui prennent des armes de défense si jamais on est attaqué. C'est compliqué de voir son cheval se faire mutiler devant soi sans réagir. On a peur de l'accident. Quelqu'un qui ferait justice soi-même.
Surtout pas d'acte de violence ou d'autodéfense. On ne fait pas justice soi-même et on n'intervient pas.
Deuxième station, le centre équestre des Maffrais.
Nous, on se lève deux fois par nuit. On a mis un dispositif de caméra. Puis j'ai un bon chien de garde. Quoi. J'espère que vous l'attraperez avant le chien, parce que le chien, il lâchera pas. Quoi.
Les projecteurs des gendarmes balayent des dizaines de kilomètres de pâture. Rien à signaler avant d'apercevoir une voiture suspecte.
Du contrôle gendarmerie, présentez les papiers du véhicule.
On a vu la fourgonnette blanche. Elle circulait bizarrement. On l'a suivie. J'ai parlé à la personne, donc je pourrais éventuellement l'identifier.
On va prendre votre identité.
3 heures de patrouille sans interpellation, mission renseignement et dissuasion accomplie. Béton, François Coulon, Europe 1.
Et hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu dans l'Oise, a précisé que 153 enquêtes étaient ouvertes dans plus de la moitié des départements français. Emmanuel Macron est lui attendu ce matin en Auvergne. Le chef de l'État sera dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand pour promouvoir l'égalité des chances.
Une pharmacie qui ressemble en tout point à un supermarché. 2000 mètres carrés, plus de 4 kilomètres de rayonnage. 40 000 références, c'est peut-être aussi ça le monde qui change.
Oui, cette pharmacie vient d'ouvrir en plein Paris dans le Forum des Halles avec des prix très compétitifs et des clients plutôt impressionnés comme l'a constaté Hélène Terzian.
Dans les allées à perte de vue, perdue au milieu des rayons hauts de plusieurs mètres, Isabelle est étourdie.
Quelque part, c'est un peu déstabilisant. Ça fait exactement comme un supermarché, c'est-à-dire des linéaires entiers, où au lieu d'avoir des paquets de pâtes, vous allez avoir des bains de bouche, par exemple, là, toutes les couleurs, les quantités sont énormes.
Et comme dans une grande surface, Julia entasse ses produits dans un panier happé par les promos alléchantes en tête de gondole.
Les sérums physiologiques pour les bébés, ils sont à 2 euros. Là où je les prends d'habitude, c'est 6 euros. Je fais un peu de stock, c'est cool.
Avec la parapharmacie qui occupe la majorité de l'espace, on oublierait même que derrière les 18 comptoirs, des pharmaciens délivrent des médicaments acheminés par un robot, avec juste à côté des salles de consultation pour réaliser des actes de santé auprès des patients. Pour Cyril Slama, l'un des pharmaciens titulaires, c'est un concept d'avenir pour un secteur en difficulté.
On cherche donc à développer un modèle où ça leur permet aussi d'avoir des services comme la vaccination, comme les tests TROD pour le dépistage du Covid. Qu'on ne peut pas forcément offrir si on est juste bloqué sur un modèle de pharmacie classique lié à la vente, uniquement à la vente.
Des officines classiques qui, selon certains professionnels, pourraient être menacées par l'implantation de ces pharmacies modernes.
Et pour prolonger ce thème, rendez-vous dans La France bouge entre 13 et 14 heures. Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil se pencheront sur les hypermarchés qui se réinventent après la crise.
Alors si vous n'avez pas déjà entendu son nom, retenez-le. Retenez-le, c'est un des grands espoirs de cette rentrée littéraire. Elle s'appelle Fatima Das.
Et elle publie son tout premier roman, La Petite Dernière, un autoportrait original et passionnant que Nicolas Caro a lu pour nous.
Je m'appelle Fatima Das. Chaque chapitre de Petite Dernière commence par ces mêmes mots. Et en 180 pages, Fatima se raconte par fragments à la manière d'un slam. Elle a 25 ans, elle est née en France, mais elle est d'origine algérienne, elle est musulmane, vit à Clichy-sous-Bois, elle est homosexuelle aussi et asthmatique par ailleurs. Dans cet autoportrait, elle explore les différentes facettes et parfois les impasses de son identité. Elle écrit son roman lors de son master de création littéraire à la fac. C'est là qu'elle rencontre son éditrice, Brigitte Bouchard.
Il y a avait Fatima, qui avait un manuscrit. Et puis, quand j'ai lu son roman, j'étais complètement sous le choc. J'étais éblouie. Là, j'ai compris vraiment que j'étais face à une écrivaine, quoi.
Et l'éditrice a du flair. Elle sait qu'elle tient là l'un des romans phénomènes de la rentrée.
J'ai très bien senti que j'étais face à un livre qu'on remarquerait parce que c'était nouveau, c'était une nouvelle voix très forte. Je savais à ce moment-là qu'on était face à un grand roman.
Ensuite, c'est Virginie Despentes qui s'en mêle en écrivant l'éloge du livre sur la quatrième de couverture. Et ça marche, une nouvelle auteure est née.
La petite dernière de Fatima Das aux éditions Noir et Blanc.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Cinquième jour du procès des attentats de Charlie Hebdo aujourd'hui. On vous emmène en salle d'audience ce matin. Mon invité sera vos yeux, vos oreilles. François Bouc a été choisi par Charlie Hebdo pour dessiner, croquer, capturer les scènes de ce procès historique et vous les raconter. Comment est-ce qu'il travaille ? Il dessine en écoutant des témoignages durs souvent. Comment est-ce qu'il vit cette mission qui lui est confiée ? Charlie, et j'ajoute le symbole du crayon, François Bouc, dessinateur du procès des attentats de janvier 2015, est l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, Boris Johnson qui agace les négociateurs du Brexit. Il conteste l'accord conclu il y a un an. L'éclairage écho de Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouet. Vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Coup de théâtre à Londres, Nicolas. Le gouvernement de Boris Johnson veut remettre en cause l'accord de divorce qu'il a conclu avec l'Union européenne, c'était il y a un an, au risque de provoquer un Brexit sans accord.
Oui, c'est absolument sidérant. La Grande-Bretagne serait donc prête à s'asseoir sur le traité qu'elle a signé avec les 27. Passons sur le fait que Global Britain aura ensuite un petit peu de mal à faire la leçon aux Chinois qui ne respectent pas le traité de rétrocession de Hong Kong. Les Anglais font la même chose. Sauf que là, les conséquences sont beaucoup plus sérieuses pour eux. Si les Britanniques remettent en cause l'accord de retrait de l'Union européenne, ils ne pourront pas conclure de partenariat commercial avec l'Europe pour gérer l'après-Brexit.
Et on aura donc le 1er janvier prochain un Brexit sans accord. On aurait un no deal.
Oui, voilà. Alors, Boris Johnson joue les braves. Il laisse dire qu'il préférait un no deal plutôt que le traité signé l'an dernier qui impose un contrôle sur les flux de marchandises avec l'Irlande du Nord. Il y a une part de bluff là-dedans. La crise du Covid a en effet considérablement affaibli l'économie britannique. La croissance a chuté de 20% au deuxième trimestre. La pandémie a effacé d'un coup 17 ans de croissance, rendez-vous compte. Aucune économie développée n'a fait pire. En outre, les conséquences de la crise sur l'emploi sont plus importantes que sur le continent européen à cause du poids des services dans l'économie. Dans ce contexte, rajouter la perspective d'un no deal, c'est un peu se tirer une balle supplémentaire dans le pied.
Et ça inquiète aussi de ce côté de la frontière.
Alors oui, nous, on n'a absolument pas intérêt à un no deal. Ce serait une catastrophe pour la pêche. 30% des captures européennes se font dans les eaux britanniques. Coût très dur aussi pour l'agriculture. C'est notre troisième client avec 3 milliards d'euros d'excédent par an. C'est même notre deuxième client pour les vins et spiritueux. 30 000 entreprises françaises exportent au Royaume-Uni et se retrouveraient du coup avec des droits de douane et des contraintes administratives sans fin. Il reste à peine quelques semaines pour conclure un accord. En attendant, la livre sterling a fortement chuté hier, un signe d'inquiétude qui ne trompe pas.
Merci Nicolas Barré, 7h15. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je vous voyais, je vous observais, écoutez attentivement Nicolas Barré.
Oui.
Sur ces questions. Vous reparlerez aussi du Brexit dans les semaines qui viennent, ça devrait arriver.
Sure.
Tout autre chose ce matin. Le verdict est tombé dans l'affaire Khashoggi, cet opposant saoudien assassiné au consulat d'Istanbul par un commando venu exprès de Riyad. Le tribunal a commué les condamnations à mort en peine de prison.
Oui, alors ils sont 5 à sauver leur tête dans le royaume qui est champion du monde pour faire voler les têtes. Le procès s'est tenu à huis clos, c'était plus prudent. On ne sait rien des condamnés graciés, sauf qu'il y a 5 membres du commando d'Istanbul et 3 autres qui ont dissimulé les preuves. On imagine dans l'eau le médecin légiste avec sa scie à os et l'officier à tête du commando, celui qu'on entendait insulter Khashoggi en même temps qu'il l'empoisonnait dans l'enregistrement complaisamment diffusé par la police secrète turque qui écoutait aux portes. Tous ces assassins anonymes sont des lampistes, des rouages de la tyrannie, de la paranoïa d'État. Les têtes pensantes ont été blanchies. Le conseiller qui a soufflé l'idée, le général qui a conçu l'opération, ces deux membres du premier cercle du prince héritier inspiré la terreur et pchit, évanouis comme des djinns et silencieux comme une tombe sous le sable.
Ah ben, les peines de prison vont de 7 à 20 ans.
Pour l'aménagement de la peine, on parie sur une formule à la française, peut-être des travaux d'intérêt général, le confinement à domicile avec bracelet électronique au cas où ces témoins seraient tentés d'aller confesser ce qu'ils savent, peut-être une prise en charge éducative pour la réinsertion, genre reconversion du légiste en artisan boucher. De toute façon, au vu des dégâts occasionnés, leur peine est dérisoire. Ces maladroits ont ruiné l'image d'humaniste que se donnait le prince héritier. Ces projets pharaoniques de cité numérique sur la mer Rouge se sont évanouis comme mirage au soleil.
La fiancée turque de Jamal Khashoggi dit que la communauté internationale n'acceptera pas ce verdict qui est une farce.
Le monde l'a déjà accepté, alors que jamais un crime d'État n'a été aussi documenté. Comparé avec ce qui vient de se passer en Russie, un autre opposant, un autre empoisonnement. Les Saoudiens n'ont jamais rendu le corps de Khashoggi. Les Russes ont laissé transférer Navalny en Allemagne, où il est sorti du coma. Les Turcs ont fourni les preuves. Les Américains ont conclu à la responsabilité directe du prince héritier. Mais MBS reste fréquentable. Dans l'affaire Navalny, Vladimir Poutine a été aussitôt mis personnellement en accusation. Pourtant, les experts s'interrogent sur la lutte pour le pouvoir entre les différents services secrets russes. Angela Merkel exige toute la vérité, tout de suite. L'Europe prépare des sanctions. Le gazoduc Nord Stream 2 est remis en question. Ça fait 20 ans que Poutine règne sans partage et sans pitié pour ses opposants. Mais il devrait faire un stage chez MBS qui fait pire et s'en tire tellement mieux.
Merci Vincent Hervouet, l'éclairage international. Il est 7h18. À suivre sur Europe 1, vous avez déjà entendu évidemment l'expression « Marie, couche-toi là ». Mais d'où est-ce que ça vient? Et pourquoi le prénom Marie? La réponse avec Stéphane Bern sur Europe 1 juste avant 7h30. Tout de suite, à 3 semaines du début de Roland-Garros, il faut regarder outre-Atlantique. L'US Open, en ce moment, doit inspirer les organisateurs. L'édito sport dans une minute. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
L'US Open de tennis est entré dans sa deuxième semaine hier, le premier grand chelem post-Covid. Pour vous, Virginie, ça ressemble plus à un cirque qu'à un grand chelem. Et vous dites même que Roland-Garros a sous les yeux l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
Ben moi, j'ai l'impression d'assister à une parodie de tournoi. C'est plus vraiment du tennis, mais plutôt une loterie avec uniquement des tickets perdants. Alors, il y aura des gagnants à la fin, je vous rassure. Mais après une quinzaine tellement rocambolesque qu'on ne sait plus très bien quelles sont les règles. Les règles sanitaires, d'abord. Tous les joueurs qui ont côtoyé Benoît Paire, testés positifs au Covid, ont été placés à l'isolement, surveillés en permanence. Soit, il faut être prudent. Mais pourquoi Adrien Mannarino a dû attendre 3 heures avant de savoir s'il était autorisé à jouer son match? En fait, oui. Et puis le lendemain, Kristina Mladenovic a, elle, été exclue du tournoi de double. Ils sont pourtant exactement dans les mêmes conditions. On a l'impression que les décisions se prennent à la tête du client. Il n'y a jamais aucune explication officielle. Avouez que les joueurs ont de quoi devenir fous. En plus, l'environnement ne les aide pas. Flushing Meadows, normalement, c'est le brouhaha continu. Et les joueurs se nourrissent de ça. Et là, c'est Pete Sampras qui l'explique. On peut dire qu'il connaît un peu le tennis, un peu l'US Open. Mentalement, c'est très compliqué à gérer. Et vous pouvez facilement dégoupiller sans rien à quoi vous raccrocher, à part l'écho du vide. Les joueurs sont perdus, nous aussi, et on en vient à douter de toutes les règles, même celles du tennis. Il y a eu des contestations après l'exclusion de Novak Djokovic du tournoi, alors qu'il n'y a rien à contester. C'est normal quand on envoie une balle sur une juge de ligne. Mais puisque tout semble fluctuant dans ce tournoi, on serait même prêt à se demander si on ne peut pas rajouter un troisième service, par exemple.
Et du coup, pour vous on en vient à un autre tournoi. Pour vous, Roland-Garros doit faire mieux à partir du 21 septembre.
Ce ne sera pas très compliqué. Et comme l'US Open essuie les plâtres de l'après-Covid, le Grand Chelem français peut et doit ajuster les mesures. Déjà, les joueurs et les joueuses seront tous logés dans 2 hôtels réservés. Ils n'auront pas de passe-droit s'ils veulent absolument leur propre maison, comme c'est le cas pour certains à New York. Ça passe par là. Un tournoi avec des règles sanitaires strictes, bien sûr, mais les mêmes pour tout le monde. Que chacun sache exactement à quoi s'en tenir et n'arrive pas sur le court sans savoir s'il va pouvoir jouer ou pas. Et puis, il n'y aura pas de huis clos à Roland-Garros. Certes, pas de tribune pleine, mais quand même un public. Et ça devrait pouvoir remettre la tête de tout le monde à l'endroit.
Merci beaucoup, Virginie Fulpin. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Roland-Garros qui approche et on en sait un peu plus sur la jauge, justement, les spectateurs. On en parle dans nos journaux. 11 000 spectateurs par jour pour Roland-Garros, en l'occurrence. Merci,
divisé
Virginie
en trois
Fulpin.
Zones, c'est pas en 11 000 zones. Ensemble, bien sûr.
Vous savez qu'on va détailler ça. On aura l'occasion d'en reparler et de parler de Roland-Garros, évidemment, sur Europe 1. 7h24. Très bon réveil, c'est l'heure de parler d'histoire et de retrouver Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Toute l'année, on fête la Vierge Marie. Le 1er janvier, on fête Marie, la Mère de Dieu. Le 25 mars, c'est l'Annonciation. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Mais aujourd'hui, on fête sa naissance. C'est la nativité de la Vierge. D'ailleurs, on connaît le nom de ses parents, Joachim et Anne. Oui, mais alors ? Alors qu'elle occupe une place centrale dans la foi chrétienne, pourquoi, pour désigner une femme de petite vertu, a-t-on longtemps utilisé en France l'expression « Marie, couche-toi là » ?
Je ne sais pas, si vous me posez la question,
ben
Stéphane.
Oui, je vous la pose, parce que l'expression apparaît au XVIIe siècle. Et puis, en 1876, dans l'Assommoir, Émile Zola fait s'exclamer à l'un de ses personnages « Les fleuristes, toutes des Marie, couche-toi là !» Alors que moi, je ne suis pas une chienne, je ne mets pas les pattes en l'air quand on me siffle. Bon, l'expression, il faut bien le dire, est sans pitié pour les femmes à la jambe légère.
Oui, mais alors pourquoi Marie ?
Bon, alors pourquoi Marie ? D'abord, c'est un prénom extrêmement commun en France. C'est même le prénom le plus donné au XXe siècle, à tel point qu'une Marie était synonyme de femme. On peut aussi penser à Marie-Madeleine, la prostituée repentie, appréciée du Christ, et qui a pu inspirer l'expression. Il y a d'autres expressions célèbres comportant un prénom. Citons au hasard « Fesse Mathieu », qui désigne
au hasard.
Oui, j'ai pensé à vous. Une personne avare. Vous voyez comme tout cela est tellement injuste quand on sait que vous-même, Mathieu Béliard, dans les couloirs d'Europe 1, vous n'hésitez pas à offrir régulièrement un café à 40 centimes à la machine à vos principaux collaborateurs.
Je ne compte plus, mon cher Stéphane. Alors Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h dans Historiquement Votre. Quel est le programme du jour ?
Eh bien aujourd'hui, on s'intéresse aux disparitions mystérieuses de l'histoire. Celle d'Antoine de Saint-Exupéry à bord de son avion, celle de l'avocat de la terreur Jacques Vergès, qui a disparu pendant près de 10 ans sans donner signe de vie, et Loana Duloft, qui a disparu aussi des réseaux sociaux depuis 2 mois en tout cas. Bref, on raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël de 16h à 18h sur Europe 1.
A tout à l'heure, merci Stéphane, à tout à l'heure 16h. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre la météo Laurent Cabrol et le journal Sophie Echen. Bon réveil.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol avec nous à 7h29, c'est l'heure de la météo.
Allez, aujourd'hui mardi, des nuages parfois denses mais provisoires sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, des éclaircies sporadiques de la Bretagne aux Ardennes, du soleil sur Paris, dans tout le sud-ouest, la région lyonnaise, et sur les Alpes et les Pyrénées, le golfe du Lion, petit risque d'ondées en soirée. Demain, mercredi, des nuages sans pluie sur la moitié nord. Mercredi donc, demain, en Méditerranée, le temps sera orageux et parfois pluvieux, c'est le seul endroit qui ne sera pas agréable. Partout ailleurs, on peut dire que le temps sera plutôt clément. Jeudi, ciel contrasté sur toute la France, avec des nuages minoritaires, peut-être un petit peu de pluie sur la moitié nord, mais rien de plus. Et puis vendredi, samedi, dimanche, allez, dans le panier, je mets lundi, chaleur, raisonnable, et de soleil envahissant. Tiens, moi aussi je suis un peu envahissant, j'arrête.
Merci Laurent Cabrol, vous êtes sur Europe 1, bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 7h30.
J'ai des amis qui ont dû arrêter la fac pour travailler à l'année, mettre de l'argent de côté, reprendre leurs études après, ce qui n'est pas la bonne solution, mais si j'ai pas le choix, je ferai ça, et c'est dramatique.
Les étudiants en situation de précarité confrontés à un vrai cercle vicieux, pas de job pour financer les cours, certains sont obligés de mettre leurs études entre parenthèses pour mettre un peu d'argent de côté. Tester, d'accord, mais faut-il tester tout le monde pour plus d'efficacité ? Certains médecins demandent à prioriser les cas contacts. Un premier suspect arrêté dans l'affaire des chevaux mutilés, il est soupçonné d'avoir blessé 3 animaux dans Lyon ainsi que leur propriétaire. Et puis ça souffle sur la 10e étape du Tour aujourd'hui, au menu une échappée maritime sur le littoral atlantique.
Juste après ce journal, un témoignage. Comment rendre compte, comment raconter un procès historique comme celui des attentats de janvier 2015, tête à tête avec François Bouc, dessinateur envoyé par Charlie Hebdo pour couvrir le procès. Dans l'édito politique de Nicolas Bétou, le gouvernement qui doit responsabiliser les Français pour éviter un nouveau confinement. Et puis à 8h05, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette nouvelle rentrée scolaire coûte cher aux étudiants en situation de précarité. Leur pouvoir d'achat est plus que limité à cause de l'épidémie de coronavirus. Selon le dernier rapport de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, près de 3/4 d'entre eux ont fait face à des difficultés financières au cours des 3 derniers mois.
Et les prochaines fins de mois s'annoncent difficiles, car le coût de la vie étudiante va encore flamber à cause de la crise, bien sûr. Il n'a pas toujours été possible de trouver un emploi saisonnier ou un job étudiant. Et forcément, pour ces jeunes, cette nouvelle rentrée a de quoi être angoissante. Ils se sont confiés à Johanna Chabas.
Ça m'est arrivé plusieurs fois du coup de sauter des repas. J'avais plus rien dans le frigo et je pouvais pas me permettre de refaire des courses à ce moment-là.
Fanny est obligée de piocher dans son livret A pour finir le mois. Cette étudiante en design a du mal à rembourser son prêt étudiant pour payer son école. Elle voulait travailler 3 mois cet été, mais impossible.
J'espérais mettre 3000 euros de côté, quoi, qui aurait remboursé du coup la moitié de mon prêt étudiant sur l'année. Je pense en tout, j'ai dû au moins postuler à 200-300 postes. Ça m'est arrivé de déposer un CV à un restaurant nous disant on charge vraiment pas de travail parce que avec la période post-confinement, financièrement parlant, c'était pas possible.
Pour s'en sortir, elle essaye de trouver un emploi étudiant pour l'année. C'est la solution choisie par Lara. Mais face aux difficultés économiques post-Covid, cette étudiante en droit envisage d'arrêter pendant un temps ses études.
J'ai des amis qui ont dû arrêter la fac, de faire une pause pour travailler à l'année, mettre de l'argent de côté, reprendre leurs études après, ce qui n'est pas la bonne solution, mais si j'ai pas le choix, je ferai ça. Et c'est dramatique.
Pour aider les jeunes, la ministre de l'Enseignement supérieur a déjà annoncé des repas universitaires à 1 euro pour les boursiers. Une mesure appréciée par les associations étudiantes, mais elle demande plus, notamment une réforme complète du système de bourse.
L'épidémie de coronavirus, elle, se poursuit et les files d'attente devant les laboratoires d'analyse s'allongent. C'était la stratégie du gouvernement, insister sur l'importance du dépistage.
Stratégie qui a ses limites. Plusieurs médecins réclament une hiérarchisation des tests, priorité au cas contact. La définition justement de ces fameux cas contacts, c'est avec Anne Le Gall.
Pour les autorités sanitaires, c'est clair, on est un cas contact et on doit faire un test, écoutez bien, quand on a fréquenté une personne contaminée pendant 15 minutes sans masque, soit dans la même pièce quand on est à l'intérieur, soit à moins d'un mètre quand on est à l'extérieur. Attention donc au laisser-aller dans les cantines, les restaurants et aux terrasses des cafés. Ensuite, si jamais on se trouve dans cette situation de cas contact, alors il faut immédiatement s'isoler, mais attendre 5 jours après le contact pour faire le test, ça ne sert à rien de se précipiter car 5 jours, c'est le temps de l'incubation et si on fait le test trop tôt, il y a un risque de faux négatif. Enfin, si on a côtoyé un cas contact qui attend lui-même les résultats de son test, alors pas de zèle, il est inutile d'aller se faire tester avant de savoir si cette personne est vraiment positive ou non.
7h34 sur Europe 1. Peut-être une première piste sérieuse dans l'enquête sur les mutilations de chevaux. Un homme de 50 ans a été interpellé, placé en garde à vue hier dans le Haut-Rhin.
Il a été arrêté grâce au portrait robot diffusé par les gendarmes. Cet homme est soupçonné d'avoir blessé 3 chevaux dans un ranch de Lyon dans la nuit du 25 août dernier. Nicolas Damejean, le propriétaire des animaux, a lui aussi été blessé au bras alors qu'il tentait de s'interposer. Pas de précipitation, l'enquête ne fait que commencer, mais il est impatient d'en connaître les résultats.
Tant que je n'aurai pas confirmation de la gendarmerie officiellement que c'est mon individu, pour l'instant, je suis encore dans la peur. S'ils reviennent, me foutent sur la tête ou me tuer, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là. Hein. Parce que quand vous voyez qu'ils font des actes de barbarie sur les chevaux, ils n'ont pas eu peur de venir sur moi et me foutre un coup de serpette. Oui, je vis dans la peur, je vis enfermé. La nuit, j'ai des bénévoles qui font des rondes, en espérant que ça arrive vraiment à la fin et puis qu'on pourrait se dormir sur nos deux oreilles. Il faut qu'on les emmène devant un tribunal qui soit jugé. Quand tout ça sera arrêté, là on pourra dire ouf, ça y est, on a gagné.
Nicolas Damejean, joint pour Europe 1 par Marion Gauthier. Pas de Kylian Mbappé sur la pelouse du Stade de France ce soir. L'attaquant a été testé positif au coronavirus. Les Bleus affrontent la Croatie en Ligue des Nations. Coup d'envoi à 21h. En tennis, elle déclare forfait pour Roland Garros. La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, renonce à disputer le tournoi à cause de la crise sanitaire. Roland Garros se déroulera à partir du 27 septembre prochain devant un public réduit, 11 500 spectateurs par jour au lieu des 20 000 espérés par les organisateurs.
Le Tour de France à présent, le Tour de France, 10e étape cet après-midi avec un itinéraire qui fait rêver. Île de Ré, La Rochelle en longeant l'océan Atlantique.
Oui, mais le peloton n'aura pas vraiment le temps d'apprécier le décor car il faudra se concentrer sur la route et sur la météo car le vent pourrait se lever et cela pourrait annoncer une étape animée. Axel May.
Au réveil, directeurs sportifs et coureurs auront regardé la météo. Le tracé du jour qui longe l'océan est exposé au vent. Le sprinteur français Brian Coquard a coché cette étape plate comme la main.
Ça sera dangereux toute la journée. Ça dépend simplement de la force et de la direction du vent. Avec pourquoi pas des coups de bordure, tout le monde s'attend à ça. Ça dépend simplement du vent.
Le coup de bordure, c'est-à-dire une cassure dans le peloton quand les hommes de tête accélèrent soudainement en profitant des effets du vent. Pierre-Luc Périchon est chargé de protéger le grimpeur Guillaume Martin, actuellement 3e du classement général. Il espère que le vent sera calme.
Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un coup de Trafalgar sur le tour, donc on va rester vigilant et ça risque d'être des journées nerveusement fatigantes, mais pas très physiquement.
Le passage du pont de l'île de Ré à 16 km de la ligne d'arrivée devrait rendre le final de cette étape encore plus tendu. La Rochelle, Axel Meyer, Europe 1.
Et puis cette histoire pour le moins insolite, ça se passe en Suisse, près de Zurich. Un homme a porté plainte contre une maternité, estimant que les femmes criaient trop fort pendant leur accouchement, allant jusqu'à parler de nuisances sonores. Et la conclusion de tout ça, c'est que la justice lui a donné raison. La maternité ne pourra plus ouvrir ses fenêtres.
Merci Sophie Echen. Je me passerai de commentaires sur cette dernière information insolite. Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'insécurité au cœur du débat politique de cette rentrée, le plan de relance aussi, et puis ce matin, l'accord de Brexit contesté par Boris Johnson, la position du Rassemblement National. L'eurodéputé Jordan Bardella est l'invité d'Europe Matin à 8h15. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, témoignage. Cinquième jour du procès des attentats de janvier. La mission de mon invité, être vos yeux, vos oreilles. François Bouc est dessinateur de BD, choisi par Charlie Hebdo pour couvrir le procès. Sa place, son poste d'observation, juste sous les juges, face à la salle d'audience. Mais comment est-ce qu'on croque un procès empreint d'une telle émotion? Comment travaille-t-il? Qu'est-ce qu'on attend de lui? François Bouc, invité du tête-à-tête Europe Matin, dans moins d'une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40, deuxième semaine du procès des attentats de janvier 2015. Mon invité est dessinateur François Bouc, envoyé par Charlie Hebdo pour couvrir le procès en salle d'audience.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Bouc.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Je vais parler sous votre contrôle. Vous êtes dessinateur de bande dessinée. Charlie vous envoie couvrir ce procès. Alors le croquis d'audience, comme on dit, c'est un exercice qu'on connaît. Les procès ne sont ni filmés ni photographiés d'ordinaire. Mais cette fois, ce procès, ces dessins-là, est-ce que c'est différent?
D'abord, c'est un procès qui implique et qui a... Des gens qui ont tué, ou en tout cas qui ont participé à une tuerie de dessinateurs. Donc je me sentais déjà beaucoup impliqué par la même. Et le croquis d'audience est très intéressant parce que justement c'est un endroit privilégié où le dessin est toujours privilégié. C'est-à-dire que le témoignage par le dessin est un témoignage essentiel pour les audiences. Ce qu'on ne peut pas avoir bien sûr ni avec la photographie ni avec la vidéo puisque ça n'est pas autorisé dans les salles d'audience.
Alors expliquons à nos auditeurs, on a beaucoup dit, que je le précise, que ce procès serait filmé, pas pour une diffusion au public, c'est pour l'histoire, pour les archives en l'occurrence. Je voudrais qu'on explique à nos auditeurs comment ça se passe. En fait, dans la salle d'audience, vous êtes sous les juges, je crois.
Exactement, oui. On a cet endroit privilégié qui nous est réservé, c'est-à-dire qu'on a derrière nous les juges, mais bien sûr on peut se déplacer, ce qui fait que ça nous permet aussi de pouvoir dessiner les juges. Et on est à un endroit où on voit juste devant nous ceux qui passent à la barre, que ce soit les témoins, les parties civiles, enfin toutes sortes, les avocats de la défense. Et on a sur les côtés, en tout cas dans ce tribunal-là, deux boxes vitrées avec les prévenus qui sont derrière.
Alors j'essaie de me figurer la salle d'audience. Vous êtes sous les juges, vous dessinez, vous travaillez. Juste à côté de vous, en fait, vous avez les accusés.
Oui, on les a derrière nous, de trois quarts à peu près.
Pas de contact avec eux.
Parfois, il y en a qui nous... hier, il y en a un qui me demandait « Ah, vous faites du dessin, vous ? Ah, oui. C'est intéressant. » Il veut voir les dessins, voir si on l'a dessiné. Lui, il y a des fois des contacts qui sont pris comme ça, qui sont assez presque déstabilisants, parce qu'on ne sait pas trop comment faire avec,
comment se comporter
avec un prévenu. Oui,
a priori, on peut comprendre votre surprise. D'autant que vous avez un devoir aussi dans l'audience de discrétion, de silence aussi, non? Ou pas spécialement?
Oui, bien sûr. Ouais. L'ambiance générale est une ambiance qui est plutôt réservée aux discussions entre les différents professionnels de la question. Donc nous, on est là en observateur le plus attentif possible et essayer de saisir déjà par l'observation ce qui se passe. Ça nous oblige presque au silence parce qu'on peut pas commenter en même temps.
Oui, bien sûr. Vous travaillez au crayon?
Je travaille au crayon, à l'aquarelle, à l'encre de Chine aussi, avec des stylos à la japonaise, vous savez, des stylos pinceaux, ce qui est très pratique, ce qui fait qu'on peut fixer plus définitivement...
Parce qu'il faut aller vite aussi, pardon, ça se passe devant vous, il ne faut pas manquer le moment.
Oui, oui, exactement. Il y a des moments où on voit un truc qui se passe en quelques secondes et il faut le fixer au crayon. Et ensuite, en se disant, il faut absolument que je mémorise ça parce que c'est tellement bien que je vais devoir le finaliser. Et... Mais j'ai quand même l'essentiel qui est au crayon, là.
Il y a, dans votre travail, je veux dire, ce n'est pas une caricature. Vous n'improvisez pas. Vous avez un devoir... d'honnêteté dans ce que vous retranscrivez, dans ce que vous racontez. Quelle est la place, finalement, pour votre patte de dessinateur, votre personnalité, votre expression ?
Disons que j'ai tendance, bien sûr, à la caricature par ailleurs, mais là, j'essaye d'être le plus... pas neutre, parce qu'on peut pas l'être. On sélectionne les traits, on interprète. Hein, graphiquement. Mais ce qui me sert avec la caricature, c'est de retrouver les personnalités, l'individualité. Et donc, parfois, là, le problème, c'est qu'on a des masques presque en permanence.
Ce qui j'ai vu vos dessins d'audience, pour le coup, sur les premiers jours du procès. Ça doit, pour le coup, complètement changer votre façon de travailler, d'avoir tous ces visages à moitié couverts.
Oui, oui, c'est très frustrant. C'est très frustrant pour les visages, en tout cas. Parce qu'on voit bien sûr les regards, mais d'un seul coup, quand il y a quelqu'un qui baisse un peu le masque, on se dit « Ah mince, j'avais pas imaginé son nez comme ça. Ah, il y a une bouche comme ça. Oh, d'un chien. Si j'avais pu l'avoir avant, j'aurais pu avoir plus de crédibilité encore dans les attitudes du personnage. » Et donc là, on est dans une espèce d'atmosphère qui est presque fantomatique. Et peut-être aussi que ça participe de ce procès qui est un peu exceptionnel, d'avoir des images exceptionnelles, d'avoir des espèces de fantômes où finalement, il y a une espèce de nivellement. C'est-à-dire que tout le monde a un masque, que ce soit les prévenus, les parties civiles, les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, les juges, tout le monde a un masque. Il y a une espèce d'égalitarisme d'un certain point de vue. On est des êtres humains.
Face à la justice.
Face à la justice, ouais.
Vous êtes aussi là, votre amitié avec les gens de Charlie, et notamment de Cabu, vous étiez un proche de Cabu. Comment est-ce qu'on garde la distance ? Est-ce qu'on l'oublie ? Est-ce qu'on décide qu'on se moque de cette distance ? Ou est-ce que vous arrivez à replacer une forme de distance entre ce qui se passe sous vos yeux et votre ressenti ?
L'aide qu'on a, c'est le dessin. C'est-à-dire que les images qu'on a pu voir hier, par exemple, où on voit la scène
hier,
de
ce
crime,
sont la scène, voilà, la rédaction de Charlie Hebdo, les images de l'intérieur qui ont été diffusées.
Exactement, qui sont les images panoramiques faites par le service de police, où on voit les cadavres des camarades. Le dessin permet à ce moment-là d'avoir le recul suffisant pour pas plonger dans un univers émotionnel trop impactant, comme on dit aujourd'hui.
Votre métier, votre travail dans le civil, c'est dessinateur de BD d'ordinaire, François Bouc, et vous publiez d'ailleurs, je le précise au passage, la semaine prochaine, New York Cannibals, avec un scénario de Jérôme Charin et vos dessins. Mais vous collaborez aussi avec Charlie, sous pseudonyme. Alors, je ne vous demande pas votre pseudo, parce que c'est l'idée de rester anonyme. Pourquoi est-ce que vous ne signez pas sous votre vrai nom, François Bouc, dans Charlie ?
Parce qu'au moment où on me l'a proposé, et j'en ai parlé, enfin en tout cas mes parents, dans une discussion, ils étaient encore vivants à l'époque, ils m'ont dit « Non, nous on ne veut pas, que tu ailles là-dedans parce que tu prends trop de risques. » Et donc, je dis « Oui, mais bon, je me voyais mal refuser. Déontologiquement, amicalement, pour toutes ces raisons, fraternellement presque. Et donc, un jour je leur dis « Mais si je prends un pseudo, ça peut peut-être aller. » Et donc, il y avait une espèce de tolérance molle un peu de la part de mes parents. Mais j'ai saisi cette faille pour pouvoir le faire. Mais maintenant, ils sont morts tous les deux. Mais je garde quand même, ne serait-ce que pour eux maintenant, l'idée.
De ce pseudonyme en tout cas. François Bouc, c'est votre nom, c'est sous ce nom que vous signez New York Cannibals et c'est sous ce nom que vous travaillez en ce moment pour la couverture de ce procès, énorme procès des attentats de janvier 2015, 2 mois et demi. François Bouc, juste sous les juges, qui croque, qui dessine justement ce qui se passe pendant ces journées d'audience. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu témoigner ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. Il est 7h48. Vous restez bien avec nous à suivre l'inquiétude face à la progression de l'épidémie. Comment éviter un nouveau confinement? Le vrai défi pour le gouvernement, faire appel au sens de la responsabilité des Français. L'édito politique de Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les signaux indiquant que l'épidémie de coronavirus accélère n'ont cessé de se multiplier depuis quelques jours.
Oui, avec en particulier un chiffre redoutable. Si le nombre de personnes testées a été multiplié par 2 depuis juillet, le nombre de cas détectés a été multiplié, lui, par 12. Une réalité qui nous place tous, et le gouvernement en particulier, dans une situation très délicate. Pour les Français, c'est la crainte de voir ressurgir la menace au stade où elle en était à Pâques dernier. Eh bien, au moment où démarre le plan de relance de l'économie, ça peut avoir un effet paralysant, ravageur. Le risque, c'est pas de reprise de la consommation, pas de dégonflement des bas de laine, les fameux 85 ou 100 milliards économisés par les épargnants pendant le confinement. Et puis pour les chefs d'entreprise, c'est le risque d'un deuxième coup de frein sur l'emploi et d'un gel des investissements.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à faire capoter le plan de relance ?
Clairement, oui. Oui, tout va dépendre d'un facteur clé, la psychologie, qui, comme chacun sait, est une donnée essentielle en économie. C'est donc cela qu'il va falloir surveiller et, si j'ose dire, bichonner.
Et est-ce que le gouvernement peut agir justement sur ce facteur psychologique ?
Certainement. D'abord, il doit dire et redire qu'un nouveau confinement brutal et total est exclu. On est censé avoir, beaucoup plus qu'il y a 6 mois, des moyens de lutter contre la propagation de la maladie. La seule chose qui fait défaut, c'est cette grotesque appli Stop Covid. Mais on a des masques, du gel et des tests. Et puis même si aucun gouvernement ne pourrait le plaider avec autant de brutalité, nous n'avons plus la possibilité de supporter un nouveau blocus. Nous n'avons plus les moyens d'arbitrer, quoi qu'il en coûte, pour la santé et contre la survie économique et sociale du pays. Bon, mais il faut donc envisager autre chose.
Par exemple, est-ce que les zones rouges, les fermetures anticipées de bars ou le port du masque obligatoire font partie de cette panoplie ?
Absolument, et c'est précisément là que tout va se jouer. Avec une question centrale, est-ce que le gouvernement est disposé à jouer le local en adaptant au plus près du terrain les mesures de restriction ou de confinement ? Ce n'est pas évident, comme on l'a vu à Marseille ou dans le Bas-Rhin et le Rhône, avec l'interdiction totale de circuler sans masque, sans distinction ni de lieu, ni de densité de la population. Il fallait faire simple et compréhensible, se défendent les pouvoirs publics. Non, il faut garder un espace de liberté, a tranché le Conseil d'État qui a annulé en partie ses arrêtés. Eh bien, voilà bien toute la problématique. Les Français sauront-ils faire bon usage d'un espace de liberté, si minime soit-il, qui peut leur être laissé, avec ce que ça peut avoir de positif sur la psychologie collective, ou au contraire, devront-ils à nouveau courber la tête, avoir peur et s'enfermer, et là, dégâts assurés.
Merci Nicolas Bétou. La responsabilité des Français. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, et j'attire votre attention sur le journal de 8h dans quelques minutes. Ces Français qui passent entre les mailles du filet. Des réfractaires même pour certains. Il y a ceux qui refusent les masques. Qui sont-ils ? Et puis ceux qui ne veulent pas se faire tester de peur de se découvrir contaminés. C'est le dossier à la une du journal de 8h. Merci Nicolas. Votre nouveau rendez-vous dans Europe Matin cette année, juste avant 8h. Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement National.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour chers auditeurs. Ce matin, vous l'avez dit, je reçois Jordan Bardella, pardonnez-moi, 24 ans, il devrait être, vous l'avez compris, donc sur Skyrock ou Énergie. Eh bien non, 24 ans, il est sur Europe 1 parce qu'il souhaitait faire l'interview politique de Sonia. Il a 24 ans, seulement 24 ans, je pourrais être sa mère, oh, ça me fout le bourdon. C'est fou, si jeune Mathieu, et déjà de droite, et puis attention, la droite, droite, hein, la droite, tout à droite de la droite, Sonia, prenez un peu de miel pour votre voix. C'est ça, tata Marine, voilà. Je vous connais, cher Sonia Mabrouk, si vous pouvez... Et vous pouviez laisser le gamin tranquille, hein, merci. Et je voudrais vous dire une chose, c'est... Oh, pardon. Oh, coucou, toi. Mon joli métis, je ne t'avais pas vu. Tiens, mon Mathieu. Je t'ai amené le goûter de Jordan. Voilà, hein, tu lui donnes les éléments de langage à placer pour l'interview. C'est pas compliqué, il y a juste un prénom et une date.
Marine 2022. Voilà, je fais compliqué.
À tout à l'heure, Nicolas Canteloup, évidemment, la revue de presse avec un peu de miel à 8h45. Et puis l'interview politique de la matinale, c'est à 8h15. Sonia Mabrouk face à Jordan Bardella. 7h56, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous sur Europe 1, on écoute le monde changer. Il est 8h.
On va se reconfiner individuellement sous prétexte qu'on est testé positif. C'est comme si qu'on avait la peste, quoi. On va dire, on ferme votre restaurant. C'est pas possible. Économiquement, c'est la mort.
Ils craignent pour la survie de leur entreprise ou de leur liberté. Des Français préfèrent ne pas aller se faire dépister au coronavirus. D'autres refusent de porter le masque. Illustration dans un instant de ces réticences à appliquer les consignes que martèlent les autorités. Une place sur deux en amphi, rotation des étudiants, cours à distance. Les universités françaises font face au défi d'une rentrée sous Covid. Dans ce journal, Brexit, new episode, la négociation fait du surplace. Des nouvelles d'un ancien correspondant d'Europe 1 détenu dans les geôles algériennes. Et puis, plus fort que le cancer du sein, le venin des abeilles. Il contiendrait une substance bénéfique contre la maladie.
Juste après ce journal, l'eurodéputé Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Après 8h30, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Les troubles de la mémoire ne sont pas les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Notre planète avec Fanny Agostini à 8h40, avant la revue de presse de Nicolas Canteloup. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tester, 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 nous recommandait l'Organisation mondiale de la santé à la mi-mars. Ces derniers jours, c'est devenu une cacophonie. Les files d'attente, les délais pour les résultats, l'absence de priorisation entre les patients. On est malgré tout à 1 million de tests par semaine en France. Pourtant, certains, quel que soit leur facteur de risque, préfèrent ne pas aller subir un prélèvement PCR.
Ce n'est pas qu'ils veulent se voiler la face sur une possible contamination, mais ces artisans, ces indépendants ou ces salariés ont peur pour leur emploi, Virginie Salmen.
Oui, faire le test, c'est risquer de perdre son travail ou au moins une partie de son salaire. Et c'est très clairement la raison pour laquelle Stéphanie, responsable des ressources humaines d'un groupe de bars de nuit, n'ira pas.
Moi, je n'irai pas me faire tester, même si je devrais le faire à cause de gens que j'ai pu croiser récemment testés positifs, pour la simple et bonne raison que les enfants devraient rester à la maison. Moi, je ne pourrais pas aller travailler, et surtout financière, perte de salaire, parce que la société pour laquelle je bosse ne fait pas de complément de salaire.
Même quand on est patron d'une petite entreprise, aller se faire tester est inimaginable, en tout cas pour Jean Dufour, qui dirige un petit restaurant dans l'Essonne. Il a déjà perdu 70 000 euros pendant le confinement. Alors peut-être ira-t-il faire un test PCR, mais s'arrêter sûrement pas.
Oui, si j'ai des symptômes, j'irai me faire tester. Maintenant, je les garderai pour moi. Qu'est-ce que j'en ferai? Je vais dire que voilà, j'ai le symptôme du Covid, donc je vais fermer mon établissement. On va se reconfiner individuellement sous prétexte qu'on est testé positif. C'est comme si qu'on avait la peste, quoi. On va dire, on ferme votre restaurant. C'est pas possible. Économiquement, c'est la mort.
S'il est testé positif, il portera le masque à 200%, dit-il. Et en se lavant les mains sans arrêt dans son métier, il estime qu'il ne fait pas courir de risque aux autres.
Virginie Salmen, on le voit, il y a là une crainte économique. Un système peut-être insuffisamment protecteur. Pourtant, Nicolas Bétou nous le disait, le facteur psychologique et la confiance sont déterminants pour la sortie de crise. Mais dans la réaction face aux consignes sanitaires, on observe aussi une autre attitude de l'ordre du parti pris presque politique.
Vous avez vu ces images de manifestations contre l'obligation du port du masque en Allemagne ou encore aux États-Unis. Cela touche aussi la France, à bien moindre échelle. Jean-Sébastien Soldaini, la Fondation Jean Jaurès s'est penchée sur le profil de ces personnes parfois militantes et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux.
Les anti-masques sont à l'opposé des mouvances contestataires classiques. Moyenne d'âge, 50 ans, niveau d'études élevé, avec toutefois une forte sensibilité aux thèses conspirationnistes. Sur le plan politique, pas de vrai marqueur, au contraire de l'Allemagne, où le mouvement penche largement vers l'extrême droite. Les sympathisants des Gilets jaunes sont présents, remarque Antoine Bristiel, chercheur à la Fondation Jean Jaurès. Il note aussi que le plus petit dénominateur commun entre ces militants semble être le soutien sans faille à une personnalité bien précise.
Il y en a quasiment 9 sur 10 qui ont plutôt une bonne opinion du professeur Raoult sur ses groupes Facebook anti-masques. Et puis aussi, lorsque l'on leur demande « Est-ce que vous pensez que chacun devrait être libre de choisir s'il veut être traité à l'hydroxychloroquine ?» Il y en a 98% qui sont d'accord avec cette affirmation.
Adhésion au traitement du professeur Raoult et rejet massif d'un éventuel vaccin contre le virus. 94% refuseraient une injection, comme pour marquer leur défiance envers des institutions qui, selon eux, réduisent les libertés.
Jean-Sébastien Soldaini. Dans l'enseignement supérieur, la
rentrée arrive ces jours-ci, après 6 mois d'interruption, et alors que jamais les élèves de terminale n'avaient été aussi nombreux à avoir leur bac.
Il y aura donc du monde sur les bancs des amphis, mais l'épidémie est là et il faut s'adapter, comme à l'université de Bordeaux. 60 000 étudiants qui prennent leur marque face au protocole sanitaire. Le reportage de Stéphane Place.
Masqués, ces étudiants de première année en santé, en gestion, découvrent le campus bordelais. Première rentrée universitaire, une place sur deux occupée dans les amphithéâtres et une partie des cours donnés à distance.
On nous a dit que ça allait se baser sur une semaine en présentiel et une semaine en distanciel. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on est beaucoup quand même dans les amphis.
L'adaptation sera plus difficile, je pense. Vu qu'en plus, c'est nouveau pour nous. Une semaine juste seulement à l'université, ça va être assez compliqué, je pense.
Ça va être plus compliqué à la maison. Il va falloir s'organiser parce qu'on a nos consoles, on a nos téléphones qui vont peut-être nous distraire, alors qu'ici, bah, on doit aller dans la salle, dans l'amphithéâtre.
Et pour assurer ces enseignements à distance, l'Université de Bordeaux a recruté des techniciens, acheté aussi de nouveaux équipements numériques, comme l'explique le président Manuel Thunon de Lara.
Maintenant, tous les amphis de l'université sont équipés pour le distanciel. 300 ou 400 dispositifs de captation mobile. Surtout la prise de son. On sait très bien restituer l'image, mais on sait moins bien capter le son, et ce qui est indispensable pour avoir l'échange entre le prof et les étudiants. Il y a une espèce de rotation qui permet de respecter ces jauges de densité dans les cours et les amphithéâtres.
Un investissement de 2 millions d'euros pour l'université bordelaise. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
En économie, une bonne et une mauvaise nouvelle ce matin. La mauvaise, c'est l'INSEE qui corrige à la baisse sa prévision de croissance pour le troisième trimestre, qui verrait tout de même un rebond de 17% du PIB. La bonne, c'est le lancement aujourd'hui du plan hydrogène.
2 milliards d'euros dans le plan de relance pour ce qui doit être une filière d'avenir, ce qui doit faire rouler de plus en plus de véhicules.
Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse, fait partie des convaincus. Pour lui, jusqu'à présent, il ne manquait qu'un peu de volonté politique.
Vous savez, les premières piles à combustible qui utilisaient de l'hydrogène étaient utilisées par la NASA dans les années 60 sur le programme spatial. On est 50 ans plus tard, la technologie est prête, mais tant qu'il est permis de polluer, eh bien, les constructeurs automobiles continueront à faire comme ils ont toujours fait. Maintenant, la France n'est pas plus à la traîne que le reste de l'Europe ou le reste du monde. Je pense que ce plan hydrogène lancé par le gouvernement français est une très très bonne chose. Aussi parce que ça donne un signal extrêmement clair à l'industrie que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller et qu'il faut investir.
Bertrand Piccard, invité de Sébastien Krebs, c'était ce matin en direct à 6h40 sur Europe 1. À l'étranger, l'annulation hier par un tribunal saoudien des peines de mort qui avaient été prononcées contre les participants au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Une décision loin de satisfaire les attentes, réagit la Turquie. C'est sur son sol, au consulat saoudien, que s'étaient produits les faits.
Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, c'est toujours une histoire de bras de fer, une négociation. Et quand cela oppose un pays, le Royaume-Uni, à 27 autres, ça prend un peu de temps.
Et puis les piqûres d'abeilles, possible remède face au cancer du sein. Un traitement prometteur se prépare.
8h08, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Si le feuilleton du Brexit vous avait manqué, le revoilà. Il faut conclure un accord d'ici quelques semaines pour préciser la future relation entre Londres et Bruxelles, en particulier sur le commerce, mais rien n'avance.
Vous êtes Isabelle Horry, notre spécialiste sur ce dossier. On est là dans une tactique de négociation. Ou est-ce qu'il y a vraiment une impasse ?
Eh bien, à l'heure qu'il est, en tout cas, les deux camps sont complètement braqués. Ils n'ont pas avancé d'un millimètre depuis des mois. Sur les rives britanniques de la Manche, Boris Johnson clame qu'il n'acceptera pas de compromis sur les conditions de l'indépendance nationale. La presse annonce même que Londres compte revenir sur les engagements pris l'an dernier concernant l'Irlande du Nord. En face, sur le continent, le ton est plus posé, mais les déclarations inflexibles. Si la Grande-Bretagne veut accéder au marché unique européen, elle doit accepter les conditions des 27, répète en boucle le négociateur Michel Barnier. Les Européens veulent être sûrs que leur voisin ne leur fera pas de concurrence déloyale. Ils veulent des mécanismes de surveillance et des engagements. Il faut une solution d'ici fin octobre. Alors, c'est vrai que l'an dernier, Londres et Bruxelles ont réussi un divorce sans accord à la dernière minute. C'est possible aussi pour cette négociation sur la relation future. Mais côté européen, les proches du dossier s'interrogent. D'où pourrait venir l'ouverture côté anglais ? Et si Londres était prêt à aller jusqu'au no deal par idéologie brexiteuse, l'hypothèse hante vraiment les esprits.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et nous vous parlons à présent d'un ancien correspondant d'Europe 1, Khaled Drareni, journaliste en Algérie. Il est jugé en appel aujourd'hui après une condamnation à 3 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale.
C'était pendant le Hirak, ce mouvement de contestation dans la rue algérienne. Le témoignage de son frère ce matin, Chekib Drareni.
Nous sommes très inquiets pour lui. Nous n'avons pas le droit de le voir ni de l'appeler. Il nous a appelé qu'à 2 reprises. C'était des communications très
courte, de 30 secondes à une minute. Mais sinon, toutes les demandes pour le voir ont été rejetées. Khaled garde le moral. Khaled est un homme très fort, très ambitieux, très courageux. Il garde le moral, il est toujours souriant. Nous sommes persuadés que le gouvernement algérien veut que la liberté d'expression soit étouffée. Et à travers Khaled, il transmet un message très clair aux Algériens. Et nous sommes tout de même confiants, c'est un dossier qui contient une page. Le dossier contient peut-être quelques screenshots de sa page Twitter. Et nous avons toujours confiance en la justice algérienne. Donc nous avons toujours espoir qu'il soit libéré.
Chekib Drareni avec Mathieu Bock pour Europe 1.
Et on en vient à présent à cette étude inattendue, pour le moins. Et si pour soigner un cancer du sein, une piqûre d'abeille était un bon début?
Oui, c'est une étude australienne dans la revue Nature qui le dit. Ève Roger, il y aurait donc des effets bénéfiques au venin.
Certains savent déjà que le miel des abeilles aide à cicatriser les plaies et même que leur venin peut soulager des rhumatismes. Mais qu'il puisse aussi détruire les cellules cancéreuses de certains types de cancers du sein, ça, c'est une découverte. Alors ce n'est pas précisément le venin qui agit, mais l'un de ses composants, la mélitine, cette toxine qui provoque la douleur au moment de la piqûre. Et la bonne nouvelle, c'est que cette molécule est efficace surtout contre les cancers les plus agressifs, appelés triple négatifs, soit un quart des cancers du sein. Et pour Mahasti Zaghachian, oncologue à l'hôpital américain et à l'Institut Gustave Roussy, cette découverte est un très grand espoir.
Le cancer du sein triple négatif et sur lequel nos traitements d'aujourd'hui, chimiothérapie, radiothérapie, ne marchent pas très bien. Ce sont les patientes qui rechutent le plus, qui malheureusement décèdent aujourd'hui le plus. Et donc là, on a l'impression de toucher en quelque sorte à une substance qui serait une super chimiothérapie, en particulier sur ces cancers triple négatifs.
Mais il va falloir être patient pour accéder à ce traitement qui n'en est qu'au stade préliminaire. Il faudra attendre plusieurs années, entre 7 et 10 ans.
Le football en bref. Kylian Mbappé, forfait pour France-Croatie ce soir. L'attaquant est positif au coronavirus. C'est par ailleurs le 7e joueur de son club, le PSG, à être contaminé.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h. À 8h14, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le Rassemblement National dénonce une barbarie qui s'installe en France et veut la combattre. Pourquoi alors n'avoir jamais voté une loi, une disposition sécuritaire ces dernières années? Réponse sur ce sujet et d'autres de notre invité, le vice-président du RN et eurodéputé Jordan Bardella.
A tout de suite sur Europe 1, 8h14.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'eurodéputé Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National.
Bienvenue à vous et bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Qui sont les barbares ?
Les barbares, ce sont ceux qui ont lynché à mort Philippe Moglio, ce chauffeur de bus qui a été laissé pour mort à Bayonne parce qu'il a eu le malheur de demander à des passagers de porter leur masque. Ce sont ceux qui ont traîné Axel, cette jeune lyonnaise de 23 ans qui a été traînée sur 800 mètres. Et ce sont tous ceux qui se rendent coupables des une violence gratuite qui sont commises toutes les 44 secondes dans notre pays. Ce sont ceux qui ont commis les 900 agressions par jour qu'il y a eu cet été. Et c'est ceux contre qui, malheureusement, le gouvernement ne fait rien parce que la justice ne fait plus peur aujourd'hui. On voit dans l'actualité le gouvernement pinailler, nier sur l'utilisation du terme ensauvagement, alors qu'il y a une réalité qui est celle que nous décrivons et que le gouvernement a peur d'affronter.
Et vous, que faites-vous? Pourquoi les députés RN n'ont pas voté une seule mesure, Jordan Bardella, une seule disposition ces dernières années sur les lois sécuritaires?
Pas une seule, je ne dirais pas cela. Nous en avons voté au Parlement européen, par exemple. Nous avons voté pour le système d'information Schengen qui permet d'améliorer la transmission d'informations, la coopération policière.
Les
projets de loi qui ont été votés par le Parlement, par la majorité d'Emmanuel Macron, parce qu'ils sont totalement inefficaces. Et encore une fois, l'actualité démontre que toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises par Emmanuel Macron étaient des mesures de politesse, soit pour les délinquants, pour les criminels ou même pour les terroristes.
Attendez, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment peut-on dénoncer la barbarie comme vous le faites et ne pas voter une loi renforçant la sécurité et la lutte contre le terrorisme islamiste?
Comme celle
d'octobre 2017, par exemple.
Les lois qui ont été votées ne renforcent pas la sécurité contre le terrorisme islamiste. On parle du projet de loi de Monsieur Collomb. Ce projet de loi, il est totalement inefficace. Il s'agissait de transposer dans le droit commun des dispositifs qui étaient ceux de l'état d'urgence. En réalité, ça affaiblissait concernant les moyens qu'on donnait à la police et à l'autorité judiciaire. Il s'agissait, par exemple, de permettre d'assigner à résidence, non pas à résidence, un fichier S radicalisé, mais assigné à l'échelle de la commune. Donc il y avait effectivement un certain nombre d'incohérences et puis il n'y avait rien sur le problème de fond.
Non mais Jordan, par exemple, nous sommes en ce moment en plein procès des attentats de Charlie Hebdo en mai 2015, puisque vous êtes précis, vos députés votent contre la loi renseignement qui donne plus simplement de moyens à nos services de renseignement. Comment on peut
entendre cela
parce
aujourd'hui.
Parce que c'est faux, parce que les lois qui ont été votées n'ont rien changé. Voilà.
Quand on apporte plus de moyens aux services de renseignement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas efficace.
Si, parce qu'il ne faut pas se fier au titre, qui est souvent très très joli. On nous dit vous n'avez pas voté le projet de loi anti-terrorisme. S'agissait-il de fermer toutes les mosquées radicales, les mosquées salafistes définitivement dans notre pays? Non. S'agissait-il d'expulser les fichés S de nationalité étrangère qui sont des gens signalés pour radicalisation?
241 lieux fermés depuis 2018, dont des lieux de culte, des établissements associatifs, des écoles coraniques. Ça ne va peut-être pas assez vite,
mais je ne suis pas caricatural. On ne peut pas dire que les mosquées radicales ont été fermées aujourd'hui dans notre pays. Il y en a un peu plus de 120 dans notre pays. Il y en a une dizaine qui ont été fermées depuis les attentats de Charlie. S'agissait-il de dissoudre les associations salafistes, les associations politico-religieuses comme l'UOF qui prêchent la haine de l'Occident, qui prêchent la haine de la France dans un certain nombre de mosquées? Non. S'agissait-il de rendre l'armement obligatoire pour les policiers municipaux,
par
exemple?
Depuis les attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012, aucune disposition, aucune mesure. Aucune votée.
Je peux vous répéter ce que je viens de dire, mais les dispositifs qui ont été votés ne permettent en rien d'améliorer la situation dans notre pays. Il y a un peu plus de 20 000 fichés S aujourd'hui pour radicalisation. Il y en a une bonne partie de ceux-là qui sont étrangers. Ont-ils été expulsés vers leur pays d'origine? Non. Des mesures préventives, comme l'article que nous avions proposé à l'Assemblée nationale, on avait proposé 60 amendements, ils ont tous été refusés. Ça me semblait pourtant être des mesures de bon sens. C'est vrai sur la question de l'immigration aussi. Pardon, mais on nous dit on ne vote pas les mesures qui sont faites en faveur de le contrôle de l'immigration.
On parlait de la sécurité,
de
du terrorisme,
mesures,
vous parlez d'immigration.
Ça fait écho au projet de M. Darmanin qui, si vous voulez, cherche à pointer des contradictions dans notre discours alors qu'il n'y en a pas. M. Darmanin nous dit on prend des mesures sur l'immigration, vous ne les votez pas, c'est faux. Il y a eu en 2019 130 demandes d'asile qui ont été faites dans notre pays. C'est 10 000 de plus que l'année précédente et 20 000 de plus encore que l'année précédente. Donc, il y a un discours et il y a des actes. Et la réalité, c'est que sur ces actes, on ne fait rien. Et qu'en matière pénale, vous ne ferez croire à personne que le gouvernement agit pour la répression pénale aujourd'hui.
Je ne fais pas croire, je vous donne des chiffres quand vous me dites, vous me dites rien n'a été fait, je vous dis 241 lieux fermés depuis 2018, donc des lieux de culte, des établissements associatifs.
Dont beaucoup qui ont rouvert d'ailleurs, dont
combien
beaucoup ont été fermés 6 mois et ont rouvert derrière.
Vous avez la liste, vous avez les
Vous pouvez trouver la liste très facilement, mais si vous voulez faire croire aux gens qui nous écoutent que le gouvernement agit sur la sécurité et sur la politique pénale, je pense que pas grand monde ne va vous croire.
Et sur le projet Jordan Bardella de loi sur le séparatisme religieux, est-ce que vous vous abstiendrez également?
Écoutez, là encore, face au défi qui est devant nous, vous rappelez l'ouverture il y a quelques jours du procès des attentats de Charlie Hebdo. Moi, je crois que les terroristes aujourd'hui ont gagné, puisqu'en l'occurrence, la liberté d'expression a été attaquée. Plus personne n'ose publier de caricature sur Mahomet, sauf effectivement Charlie Hebdo qui a décidé.
Sauf, ce n'est pas un détail quand même.
Publier.
Elles sont relayées,
on peut regretter,
vous voyez, sur les réseaux sociaux.
On peut regretter
sociaux.
Que très peu de médias les aient accompagnés, alors que c'est la liberté d'expression dans son ensemble. Je les ai relayés. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, courageux, les ont également relayés.
Et beaucoup de citoyens, d'ailleurs, tout simplement.
Monsieur Macron nous propose une charte de la laïcité. Donc effectivement, les islamistes qui se sont attaqués ou qui ont participé du moins des attentats de Charlie Hebdo doivent effectivement trembler quand on leur dit que le président de la République va leur faire signer une charte.
Mais prévenir les dérives, Jordan Bardella, en conditionnement leur aide aux associations à la signature d'une charte, en quoi n'est-ce pas pertinent? Est-ce que c'est mauvais de frapper au portefeuille? Souvent, c'est efficace.
Il faut dissoudre aujourd'hui toutes les organisations qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste. Ces associations ont pignon sur rue. C'est vrai avec l'UOIF, c'est aussi vrai avec le CCIF, avec lequel se complaît une grande partie de la classe politique, est une organisation islamiste qui a organisé, je vous le rappelle, en novembre dernier, une grande manifestation dans les rues de Paris qui a fait hurler Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan avec M. Mélenchon et tous ses amis d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, qui ont un peu la laïcité à géométrie variable et qui ont effectivement sombré dans le gauchisme culturel. Pour revenir à votre question précédente sur la politique pénale. Nous défendons l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, la construction de nouvelles places de prison, le rétablissement des peines plongées. Et effectivement, on parlait de l'immigration, il faut effectivement expulser les délinquants et criminels étrangers. Quand je vois que depuis janvier 2020, tous les actes délictuels qui ont été commis à Bordeaux sont à 44% le fait de mineurs étrangers non accompagnés, qui sont en réalité des clandestins, eh bien je me dis qu'effectivement il y a un lien entre ces deux politiques et que nous sommes les seuls en tout cas à avoir cette volonté de fermeté.
On vous entend beaucoup
et nous n'aurons
sur
pas la
sécurité, sur
pouvoir.
La délinquance. Pourquoi on vous entend si peu sur le programme économique de Marine Le Pen? Est-ce qu'il y en a un?
Parce que c'est vous qui posez les questions et que si
oui,
vous voulez aller sur le terrain économique,
c'est vous qui apportez les réponses,
nous y
normalement.
Allons. Si vous faites écho en tout cas au plan de relance, il fallait évidemment un plan de relance. Maintenant, je pense que ce plan de relance, il est sous-dimensionné. L'Allemagne a mis 200 milliards d'euros
d'euros sur les TPE-PME. La France s'est contentée de miettes, 3 milliards d'euros pour nos très petites et moyennes entreprises. Il y avait une attente extrêmement forte.
En réalité.
Il y avait une attente extrêmement forte de la part de nos chefs d'entreprise qui ont été fragilisés durant la crise sanitaire. C'était d'exonérer, en tout cas, de charges sociales sur le second trimestre 2020. Ça n'a
Soyons
pas été
précis,
fait. Et je crois
Jordan
que c'était une
Bardella.
Mesure qui aurait rendu service
Marine Le Pen
à beaucoup de nos chefs d'entreprise.
Dénonce le plan de relance. Elle dénonce en particulier les 40 milliards européens parce qu'il y aurait un donnant-donnant.
Exactement. Ça a été avoué par le ministre des Affaires européennes,
avoué.
M. Bonne.
Avoué. C'est-à-dire, il y a une contrepartie.
Ils sont très clairs. C'est-à-dire que sur les 100 milliards d'euros de ce plan de relance, 40 milliards viennent de l'Union européenne. Ce que personne ne dit, c'est que sur les 40 milliards qui nous sont octroyés, il va falloir en rembourser 100 milliards. Donc en gros, on nous donne, il va falloir en rembourser deux fois plus. Et surtout, M. Beaune, le ministre des Affaires européennes, l'a dit dans un entretien à la presse écrite il y a quelques jours. Il le dit que ce prêt de l'Union européenne se fera en contrepartie d'un certain nombre de réformes, et notamment de la réforme des retraites.
Non,
et en réalité,
non, non.
La Commission,
mais la Commission européenne ne l'impose pas.
Si, que ce soit la réforme de l'assurance chômage. Oui, mais on peut être naïf. La réalité, c'est que la réforme de l'assurance chômage, comme la réforme des retraites, comme une grande partie des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et qui sont, à mon sens, nocives aux intérêts français, sont votées au Parlement européen.
Elle n'est pas un peu grosse, la ficelle de Bruxelles.
Lorsque j'entends le président de la République nous expliquer qu'on va se réinventer, qu'il nous parle maintenant de relocalisation, de souveraineté, et que je vois l'Union européenne qu'il soutient ouvrir de nouvelles négociations pour un traité de libre-échange sur les investissements avec la Chine, je me dis qu'encore une fois, on est en décalage entre ce qui est dit, ce qui est promis aux Français et ce qui est fait dans la réalité.
Il est où le contre-plan de relance du Rassemblement national ?
Il est dans les propositions que nous avons formulées.
Formulées depuis quand ? Depuis la dernière présidentielle, il y a eu quand même une grave crise depuis.
Oui, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle qu'on a été les premiers, dès le mois de janvier, à demander la suspension des liaisons aériennes avec des pays qui étaient manifestement des pays foyers de l'épidémie. Beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques nous riaient au nez à l'époque en nous disant que ça ne servait à rien. J'ai vu qu'on avait mis en place cette mesure très très tard, que nous réclamions pourtant très très tôt. Et je vois que nous avions demandé, dès le confinement, que soit alloué à l'ensemble de nos chefs d'entreprise, 1500 euros par TPE-PME, plus 1000 euros par salarié. C'était une mesure de bon sens qui coûtait 10 milliards d'euros et qui aurait permis de
Jordan
simplifier
Bardella,
les contraintes administratives.
Sur le plan de relance, quand même, j'insiste, et sur les contreparties, pour l'instant, c'est faux, ce n'est pas prouvé. C'est par des taxes européennes vis-à-vis des pays hors Europe et une contrepartie, le paiement évidemment de ce remboursement de 40 milliards, et ce n'est pas la réforme des retraites, comme vous le dites.
Si, c'est pas, en tout cas l'aveu du ministre des Affaires européennes. Alors peut-être vous êtes mieux renseigné que le gouvernement et que le ministre des Affaires européennes qui va être en charge d'exécuter cette politique.
Non,
je lis juste le ministre des Affaires
européennes
qui nous dit auprès de vos confrères il y a une semaine l'octroi des 40 milliards d'euros se fera avec un certain nombre de contreparties, dont la première des contreparties qui sera la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de mobilisation populaire contre cette réforme qui est à mon avis une mauvaise réforme et qui consiste à faire travailler,
mais ne l'impose pas,
à faire travailler davantage. La preuve, madame, c'est que nous avons transmis à peu près tous nos leviers de souveraineté à l'Union européenne, que c'est l'Union européenne qui décide de notre politique économique, que c'est l'Union européenne qui décide de nos accords migratoires, par exemple, puisqu'elle a aujourd'hui la main sur la maîtrise de nos frontières. Et en tout cas,
mais il n'y a pas de preuve directe comme quoi la réforme des retraites est inscrite noir sur blanc comme une contrepartie du plan de relance des 40 milliards.
Elle est inscrite noir sur blanc dans les textes. Si, elle est inscrite, noir sur blanc.
On verra alors.
Depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans le salon que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, elle est inscrite dans les textes de la Commission européenne.
Peut-être que vous le voyez trop, à l'inverse, mais on le verra.
Je pense que nous sommes des lanceurs d'alerte et c'est peut-être pour ça que les Français nous ont portés en tête des dernières élections européennes.
Vous serez en tous les cas le directeur de campagne, on l'a compris ? C'est bien
ça ? Je serai directeur de campagne des élections régionales qui auront lieu au mois de mars.
Et plus si affinité des présidentielles ?
Et nous verrons pour l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen qui fera son choix. En tout cas, plus nous nous approchons de l'Élysée, plus nous nous y préparons. Et en tout cas, quand je vois le contexte sanitaire ou économique, je me dis que beaucoup des constats que nous avions faits très tôt sont aujourd'hui plébiscités par les Français. Nous avons beaucoup de mesures, notamment de mesures qui ont été présentées par Marine Le Pen dans son grand discours de rentrée hier.
Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions.
Vous.
Bonne journée à vous et à nos auditeurs également.
Merci Sonia Mabrouk. Vous restez bien sur Europe 1, il est 8h28. Dans un tout petit instant, l'info, le journal du tour, la météo, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, Notre Planète avec Fanny Agostini. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Des témoignages douloureux mais nécessaires. Les survivants de Charlie Hebdo témoignent aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Des auditions en toute fin d'après-midi. D'abord celle de la dessinatrice Corinne Ray, appelée Coco, puis celle de la chroniqueuse Sigolène Vincent. Plusieurs chiffres économiques dévoilés ce matin. D'abord 158 000, celui du nombre d'emplois supprimés dans le privé au deuxième trimestre. Il s'ajoute auprès de 500 000 postes déjà perdus au premier trimestre. trimestre. Et puis l'INSEE prévoit un taux de chômage de 9,5% de la population active à la fin de l'année. Un tournant spectaculaire dans la lutte contre le Covid. Plusieurs études françaises prouvent l'effet des corticoïdes sur les formes graves de la maladie. Ce traitement à la cortisone ne coûte pas cher, 10 à 40 euros pour traiter un patient. Il est disponible partout dans le monde et devrait donc sauver des vies dans les pays pauvres comme dans les plus riches. Le foot, les Bleus vont devoir jouer sans Kylian Mbappé ce soir pour France-Croatie. Il a été testé positif au Covid. Coup dur aussi pour le PSG puisque c'est le 7e joueur atteint. Il ne jouera ni jeudi à Lens ni dimanche contre l'OM. Emmanuel Macron est attendu ce matin à Clermont-Ferrand. Il va se rendre dans un lycée professionnel et un centre de promotion de l'industrie. Un déplacement sur le thème de l'égalité des chances. Une première arrestation dans l'affaire des attaques contre des chevaux. Un homme de 50 ans interpellé dans le Haut-Rhin est placé en garde à vue pour des sévices contre un cheval et deux poneys dans Lyon en août dernier. Le suspect s'en était déjà pris à des animaux en Allemagne.
On apprend à l'instant que la garde à vue a été levée. Et puis l'information Europe 1 de Guillaume Bier.
Et puis le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison ferme, est rejugé aujourd'hui en appel. Ancien correspondant d'Europe 1 notamment, il est accusé par le pouvoir algérien d'atteinte à l'unité nationale pour avoir couvert une manifestation à Alger en mars dernier.
Merci beaucoup Hélène Zélani. 8h33, on part sur les routes du Tour de France.
Tout de suite, retrouvez le journal du Tour avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le journal du Tour, c'est avec vous, Marguerite Lefebvre, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on le racontait hier, les coureurs ont pris une journée de repos et on attend toujours ce matin le résultat des tests qu'ils ont passés.
Et oui, le peloton a été testé à La Rochelle lors de la journée de repos hier. Des tests PCR dont on devrait avoir les résultats dans la matinée, si tout va bien. Pour l'instant, rien de fuite. Le programme est inchangé. À ce stade, les 166 coureurs encore en lice doivent prendre le départ en début d'après-midi de la 10e étape. Tracé carte postale entre l'île de Léron et l'île de Ré. C'est donc le début de cette 2e semaine. Avec, pour certains coureurs, des nouveaux objectifs. C'est le cas du Français Julien Alaphilippe, lâché au classement général. On l'a joint hier par visioconférence.
Au niveau des victoires d'étape, on reste motivé. C'est l'objectif majeur de l'équipe sur le tour, donc personnellement voilà, je vais continuer à essayer de viser les étapes qui me correspondent le mieux et voilà, voir comment je me sens après cette première semaine difficile.
Au classement général, la question désormais c'est qui peut battre l'impressionnant Primoz Roglic?
Oui, le Slovène est maillot jaune après seulement une semaine de tour. Il était l'un des grandissimes favoris avant le départ. Il confirme son statut. Il semble loin devant tout le monde. Loin devant Romain Bardet notamment, qui est troisième à 30 secondes de Roglic.
La pédale Roglic, il est au-dessus. Donc les 30 secondes, c'est pas 10 secondes. Je vois pas comment, par un miracle, prendre 30 secondes à Roglic. Il faut juste garder le cap et tenir. Parce que ça va être hyper, hyper épuisant ce Tour de France, vu comment il est parti.
Et aujourd'hui, de nouveau, les hostilités pourraient reprendre. Étape en Charente-Maritime, le long de l'Atlantique, avec potentiellement du vent qui pourrait animer la course. On sait que c'est le genre d'étape propice aux bordures, ces cassures dans le peloton provoquées par le vent. Les favoris vont donc devoir s'accrocher pour ne pas se faire piéger et ne pas perdre de temps avant le retour de la montagne en fin de semaine.
Merci, c'était le journal du Tour avec Marguerite Lefebvre.
La passion du vélo à chaque étape, c'était le journal du Tour avec Total Direct Énergie. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
8h35, le temps avec vous Laurent Cabrol.
Et avec le soleil qui est là et qui restera présent, avec quelques nuances tout de même, sur des régions comme le Cotentin, les côtes normandes, Picard ou de la mer du Nord, nous avons quelques nuages, mais ils vont rapidement se disperser. 3 gouttes de pluie en ce moment vers Roucourt dans le Nord ou le Pays de Bray. Tout là aussi, amélioration rapide. Sur les Alpes, les Pyrénées et le Roussillon, comme sur le golfe du Lion, quelques ondées. Voilà. Alors, partout ailleurs, bien c'est le soleil, Poitou-Charentes, Centre, Lorraine, Alsace, Champagne, Franche-Comté, région lyonnaise, région parisienne. Enfin bref, les 4/5 de la France sont sous un temps ensoleillé avec des températures de 24 à 29 degrés. Et un dernier mot pour vous dire que ce type de temps, selon notre vision, devrait durer pratiquement dans les 10 jours qui viennent.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Dans un tout petit instant, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Et non, la perte de mémoire n'est pas forcément un signe d'Alzheimer. Notre planète avec Fanny Agostini, il faut s'inspirer de la stratégie de la libellule pour protéger l'environnement. Et bien sûr, Nicolas Canteloup avec Julie, la revue de presque à 9h moins le quart. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Et avec vous, ce matin, nous allons prendre soin de notre cerveau. Une équipe vient de montrer que la perte de mémoire n'était pas forcément lié à la maladie d'Alzheimer. Je croyais pourtant que c'était un des signes précoces.
Oui, et souvent, c'est une des inquiétudes des patients qui peuvent venir voir le médecin en consultation. Je ne sais plus où j'ai mis mes clés, j'arrive plus à me souvenir du nom de certaines personnes. N'ai-je pas la maladie d'Alzheimer ? Eh bien, on pensait que c'était un des signes. Eh bien, l'équipe de l'INSERM à Lille a mené une étude très intéressante. Ils sont intéressés au cerveau de patients qui ont fait don de leur corps à la science. Et ils ont fait des biopsies de 91 cerveaux de patients qui étaient atteints de maladies neurodégénératives. Donc, il y avait des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres maladies neurologiques. Eh bien, on s'est rendu compte qu'un tiers des patients qui avaient la maladie d'Alzheimer ne présentaient aucun trouble de la mémoire et la moitié des patients sans Alzheimer était amnésique. Ce qui veut donc dire qu'il faut vraiment qu'on revoie nos critères diagnostiques quant à l'approche de la maladie d'Alzheimer, puisque on sait que dans les études, on recrute aussi des patients avec des protocoles qui ont la maladie d'Alzheimer avec une perte de mémoire. Donc ça veut dire que dans les protocoles de recherche, peut-être qu'on exclut des malades et que pour un traitement futur, on aura besoin d'affiner nos critères diagnostiques.
Est-ce que vous avez des conseils, Jimmy, à nous donner ce matin justement pour un cerveau en pleine forme ?
Exactement. En fait, on peut réduire l'apparition de la maladie, mais aussi des symptômes d'Alzheimer en ayant de nouvelles acquisitions. Il faut que vos cerveaux apprennent de nouvelles choses. Plus c'est dur, plus c'est complexe, plus ça vous sort de votre zone de confort, plus c'est efficace. Ce qu'on sait, c'est que lorsque vous apprenez une nouvelle tâche, le cerveau consomme beaucoup d'énergie. C'est un effort intellectuel d'apprendre une nouvelle tâche puisque vous allez la lire, la comprendre, la mémoriser, puis l'exécuter. Mais à force de faire toujours la même tâche, même si celle-ci était complexe à la base, votre cerveau est dans une forme de routine et donc il va consommer...
De paresse presque.
Exactement, de paresse. Moins de calories, moins d'énergie. D'ailleurs, les étudiants savent que quand on travaille beaucoup, en fin d'après-midi, on peut avoir le petit creux au niveau de l'estomac. C'est bon signe. Ça veut dire que vous avez consommé beaucoup d'énergie et que vous êtes efficace. Et donc, on sait que plus vous apprenez de nouvelles choses, plus vous allez créer des connexions au niveau de votre cerveau. Puisqu'on sait qu'on a un capital neuronal, mais qu'à mesure, on va perdre nos neurones. Mais en revanche, on peut en créer de nouvelles. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On est capable d'apprendre de nouvelles choses. Eh bien, c'est des choses très simples. On peut apprendre une nouvelle langue, faire des jeux de réflexion, mais aussi des choses qui paraissent tout bêtes comme du bricolage, du tricot, jardiner ou même voyager, on s'est rendu compte que chez les personnes âgées qui effectuaient ça, on avait 15 à 30% de risque en moins de perte de capacité cérébrale. Même chose pour la méditation. Les Américains sont intéressés au cerveau de personnes qui méditent et on s'est rendu compte que la zone qui est responsable de la mémoire, l'hippocampe, était plus grosse chez les gens qui méditaient. Donc vous faites ça 10 minutes par jour, ça suffit largement. Et puis enfin, souvenez-vous, j'avais dit qu'être optimiste vous permet de vivre plus longtemps. Et bien une étude américaine montre que les optimistes ont 30% de risque en moins de perdre ses capacités cognitives. Ah ben voilà. Dernier petit conseil, achetez le guide anti-Alzheimer du professeur Philippe Amouyel, c'est la référence, vous apprendrez plein de petites astuces, même moi j'ai appris des choses, c'est aux éditions Albin Michel.
Mais déjà ce matin, vous voyez, il faut faire travailler votre cerveau et avec Jimmy, on a appris des choses. C'est notre santé, tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed, on vous retrouve comme tous les jours, Jimmy, à 15h évidemment, avec Mélanie Gomez, l'émission Santé d'Europe 1, sans rendez-vous, 8h41. Notre planète à présent... Avec Fanny Agostini, pardon, j'éteins mon micro, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Vous avez appris des choses vous aussi à l'écoute de Jimmy à l'instant, j'en suis sûr. Eh bien on continue dans la découverte. Ce matin Fanny, vous vouliez nous parler d'un insecte qui passe assez inaperçu alors que c'est l'un des insectes les plus stratèges au monde.
Alors, je ne vous donne pas tout de suite son nom, vous allez le trouver, Mathieu. Son apparition remonte à l'époque du Carbonifère, premier indice, donc il y a 350 millions d'années. On pourrait le comparer à un avion de chasse. attendez, j'en ai d'autres sous la main. Donc, il est vraiment taillé pour l'attaque. Hein. Il a des yeux convexes à facettes qui lui offrent une vision plus affûtée que celle d'un faucon. Tenez, le mécanisme de son vol intéresse même l'Office national d'études et de recherche aérospatiale pour réaliser le prototype d'une nouvelle génération de drones miniatures. Et dernier indice, les samouraïs le tiennent en haute estime et l'ont adopté comme animal totem, tant il incarne la force mêlée à la stratégie. Alors,
la mouche.
pas loin.
J'ai la réponse.
Plus gracieux.
C'est la
plus
libellule, bien sûr.
C'est la libellule. Oui.
Beaucoup plus gracieux. Ce que vous nous dites, Fanny, et c'est ce qui est inquiétant ce matin, c'est que la libellule a survécu à tout, sauf à notre époque moderne.
Oui, cet insecte s'est adapté à tout. La libellule n'a pas succombé aux variations climatiques du passé, ni même à la disparition des dinosaures. Et ce qui devrait nous faire poser question tout de même, c'est qu'elle est en train d'accuser le coup au 21e siècle de notre ère, sous l'effet de l'assèchement des zones humides et de la pollution. 11 espèces de libellules présentes sur le territoire métropolitain sont menacées de disparition, nous alerte l'Union internationale pour la conservation de la nature. La disparition progressive de la libellule pourrait nous en dire long sur le niveau de résistance des écosystèmes dont les humains font partie.
Et pourtant, nous aurions beaucoup à apprendre de cette libellule.
Mais clairement, bien plus que les autres insectes, intéressons-nous à elle, déjà parce qu'elle rend de sérieux services en dévorant de nombreux insectes ravageurs qui attaquent les récoltes, et aussi et surtout parce que c'est l'animal qui symbolise véritablement l'adaptabilité. Face à un obstacle devant elle, sachez que la libellule ne reculera jamais. Physiologiquement, elle ne peut pas faire machine arrière, elle effectuera un vol stationnaire, et après analyse de la situation, elle cherchera une issue par le haut, par le bas, bifurquera à gauche ou à droite, pour contourner le problème. Alors ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que face au mur devant nous, face au marasme environnemental auquel l'humanité est confrontée, si nous adoptions toutes et tous, et nos politiques en première ligne, la stratégie de la libellule, nous serions à même de prendre du recul et de faire des choix d'esquive plus judicieux pour l'avenir.
Fanny Agostini, on a appris des choses encore. Merci beaucoup, Notre Planète, tous les matins avec vous, 8h40 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et vous savez très bien ce qui arrive. Nicolas Canteloup, la revue de presse dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Julie est là, elle s'est installée. C'est, vous le savez, c'est que c'est l'heure de la revue de presse de Nicolas Canteloup.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Tout de suite, on retrouve avec plaisir Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu.
Eh oui, ma chère Julie. Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. Regarde le monde changer, mais aussi regarde le monde covidé. L'info du jour, eh oui, c'est Kylian Mbappé, justement, contrôlé positif au coronavirus. Pendant encore 8 jours, il devra rester en quarantaine. Et puis également, on vient de l'apprendre, c'est aussi Louis de Raguel, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, contrôlé positif au coronavirus, qui ne pourra pas venir à Europe 1 du coup pendant 8 ans, a priori. Voilà. Non, il n'a pas le coronavirus, mais bon, on a trouvé que ça comme excuse. Bon, on va tout vous dire, chers auditeurs, personne n'en veut à Europe 1. Voilà. Désolé, Louis, ça aurait été sympa, mais voilà, ça c'est difficile. Non, mais oui, Julie, vous me regardez les grands yeux, mais j'assume, on dit tout. On doit tout dire aux auditeurs d'Europe 1.
Oui, dites tout, allez.
Allez, on passe à une autre info du jour, on passe à autre chose. C'est la rédaction d'Europe 1 qui s'est opposée à l'arrivée d'un journaliste de Valeurs Actuelles à la tête du service politique.
Oui,
c'est dommage parce qu'il paraît qu'il avait un excellent slogan pour une matinale. Français, réveillez-vous. Voilà, moi j'ai déjà entendu quelque part. Ah non, mais j'ai sous les yeux. Oui, c'est le sur le track du Rassemblement National que nous a laissé Jordan Bardella. Allez, à vous Julie. On va essayer de se décontracter un peu.
Oui, c'est
tendu.
Oui.
C'est l'ambiance, c'est tendu. C'est tendu.
Allez, couchez Mathieu. C'est tendu. Bon, allez. Christophe Castaner.
Il va loin, là.
Laurent qui n'est pas content là. Oula.
Il va y avoir des dégâts collatéraux. Hein.
Allez, on en vient à Christophe Castaner. Vous le savez, il est candidat à la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Et il est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Castaner.
Ah, ouais. Et bonjour. Bonjour. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Quoi?
En régie. Non, non, non. S'il vous plaît.
Quoi?
De grâce, enlevez cette musique. Autant avant, quand j'étais, vous en souvenez peut-être, ministre de l'Intérieur, elle me donnait, c'est vrai, je vous l'accorde, un petit côté Belmondo, autant là... vous conviendrez qu'il ne me reste que le côté croquette pour chien. Bon, merci d'enlever cette musique. Voilà.
Alors, oui, c'est fait. Hein, là. Monsieur merci Castaner, pourquoi être candidat à la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée?
Eh bien, écoutez, c'est une question que je me suis posée légitimement. Écoutez, je crois que ce serait la suite logique de mon parcours politique quand on a, comme moi, n'ayons pas peur des mots, un très bon bilan. On mérite, je le crois, et c'est la méritocratie qui le veut, une promotion.
Attendez, un bon bilan? Vous avez été très critiqué à l'intérieur.
Oui, mais à l'extérieur. Tout le monde l'aurait remarqué, même bien.
D'accord, oui, bon, c'est sûr. Alors, vous êtes un des rares poids lourds.
Contrairement à certains dont je ne citerai pas le nom ce matin, la rédaction d'Europe.
Oui, allez, c'est bon. Alors, vous êtes un des rares poids lourds que le président a décidé de ne pas reconduire dans son gouvernement, n'empêche. Hein.
Oui, écoutez, pourquoi? Parce qu'il m'a dégagé la voie pour que je sois président de groupe à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. Alors, pourquoi? Parce que, vous en conviendrez, ceux qui me connaissent le savent, je suis un rassembleur.
Non, beaucoup de gens étaient contre vous quand même.
Oui, ça ne contredit pas ce que je dis. Je suis un rassembleur contre moi, mais un rassembleur tout de même.
Alors, un mot de votre successeur, Gérald Darmanin.
Comme hier. D'autres à la rédaction d'Europe.
Oui, mais c'est... Oh, il est lourd, là.
Merci, Laurent, il sauve un peu la situation. Alors, où j'en étais ? Oui, votre successeur, Gérald Darmanin, a remis hier, au goût du jour, le slogan « La drogue, c'est de la merde ». Car sa priorité sera le combat contre les stupéfiants.
C'est vrai. C'est vrai pour le ministre, nouveau ministre de l'Intérieur, pour Gérald Darmanin, la drogue, c'est de la merde. Mais attention, regardons la position et le regard des dealers. Pour les dealers, Gérald Darmanin, c'est de la merde. Donc, nous verrons par la suite qui des deux camps va gagner.
Bon, on va vous laisser, je crois. Merci, M. Castaner. Tiens, justement, on va parler du duo de choc de la place Beauvau, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Après la polémique sur l'ensauvagement, la multiplication des agressions au cours de l'été, les accusations de violence et de racisme dans la police... Ils ont du pain sur la planche, tous
du
les deux.
Du pain sur la planche. Oh, du pain sur la planche, formidable. Oh, c'est génial. Oh, vous me donnez des sujets tout cuit. C'est alors, d'où vient l'expression? Parce que les auditeurs se demandent tout le temps d'où vient ce genre d'expression et ça les passionne. D'où vient l'expression avoir du pain sur la planche?
Oh non, s'il vous plaît, Stéphane Bern.
Eh bien, il se trouve qu'en 1764, Louis XVI était fan de planche à voile. Mais quand il partait en planche, il mettait toujours, pour avoir un petit peu de réserve et son petit goûter, il mettait du pain sur la planche, d'où l'expression. Car il se trouve qu'à l'époque, Louis XVI, lorsqu'il mettait la voilure...
C'est pas du tout l'heure de votre chronique, Stéphane, on va vous laisser aussi, vous.
Louis Bonne de Louis XVI, je parle Louis Bonne de Louis XVI.
C'est bon, nous on va parler...
Façon de tenir Louis Bonne qui était tout à lui.
On va dire un mot du duo de choc de la place Beauvau. Il est avec nous, Gérald Darmanin, et sa numéro 2, Marlène Schiappa. Bonjour.
Non mais comment ça, sa numéro 2 ?
Oula.
Non mais attendez, madame Julie, je vous pose la question. Est-ce bien utile que sous prétexte que je suis une femme, il faut préciser que je suis sous un homme, c'est ça ?
Mais c'est une réalité.
Eh bien non. Je préfère que l'on parle du binôme plutôt que de parler du numéro 1 et de sa numéro 2.
Excusez-moi
de préciser.
Alors, Gérald Darmanin, la première question est toute simple, franchement.
Non mais attendez, pourquoi votre première question va à Gérald Darmanin? Parce que c'est un homme, c'est ça? Donc il doit parler en premier parce que c'est un homme, c'est ça?
Mais
c'est ça que vous voulez dire?
Pas du tout, mais parce que c'est
moi,
lui...
Moi je crois que quand attendez, pour du beurre, c'est ça?
Marlène Schiappa, c'est lui le ministre de l'Intérieur.
Et moi, je ne suis, c'est ça, que délégué dans mon rôle. C'est quoi mon rôle? C'est de laver ses slips, c'est ça? C'est la bonne femme que je suis. Vous voulez me réduire à une bonne femme, c'est ça? Vous voulez me réduire à une bonne femme, c'est ça? Non, mais dis la chose. Puisque vous êtes là pour dire la vérité aux auditeurs, il faut dire les choses.
À très bientôt, Marlène Schiappa. Elle n'a rien perdu de son mordant, elle. On n'a pas eu le temps de parler hier de la rentrée politique. Mais c'est dans le texte.
Quelle émission, on va se réveiller tout le monde, le gouvernement, les journalistes. J'ai l'air radio classique, moi. C'est plus calme.
On n'a pas eu le temps de donner la parole hier à Marine Le Pen. Elle était dimanche dans la ville de Fréjus. Elle faisait sa rentrée politique. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Calmez-vous, Mathieu Béliard. Marine Le Pen.
Oui, oui, je devais. Oh là là, quel bazar ce matin, vous en tout entendu. Oh mon, détends-toi, mon jeune métisse. Oui, je devais en parler hier, mais j'étais coupé au montage, madame. On a préféré parler de football avec monsieur Didier Deschamps dans cette chronique que du Rassemblement National. C'est dire le niveau de cette antenne. Pardonnez-moi, Je m'emporte, excusez-moi. Je salue tout le monde. Bonjour Mme Leclerc, Monsieur Cavrol, mon joli métis. Comment dire? Oh, j'ai envie de changer de formule. Moi aussi, je change de slogan. Mon séduisant mulâtre. Voilà.
On préférait l'autre.
Et bien sûr, bonjour au docteur Bobby Mustapha.
Mais non. C'est Jimmy Mohamed.
Non, mais celle-là, je la garde.
Comment il a dit Bobby Mustapha? C'est Jimmy Mohamed, Madame Le Pen.
Oui, mais écoutez, je ne suis pas loin. Je savais qu'on avait été sur un mix entre les États-Unis et Marrakech. On voyage rien qu'à l'écouter de votre nom. On est à la fois à New York et à Ouarzazate. il est mignon aussi, celui-là.
Oui, très mignon.
Ça va. Oh, ça va, tu vas pas me faire une scène, mon joli métis. Monsieur Jimmy Mohamed, parce que j'écoute votre chronique, je suis fan. Vous êtes généraliste, je crois, c'est ça? Eh bien, on est un peu pareil, tous les deux, moi je fais des généralités. Vous voyez, par exemple, immigrés, sécurité, hop, généralité. On a quasiment le même métier, généraliste, généralité. Ouais. Donc, permettez-moi, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais vous dire combien je suis scandalisé, madame. Par votre manque de cœur
sur Europe.
Ah bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Oui, vous avez rejeté un migrant. Louis de Raguel. Bon, un migrant en provenance de Valeurs Actuelles, mais un migrant quand même.
Oui, bon, écoutez,
Putain. Je suis sous la table. Moi.
Bon, Marine Le Pen, votre nouveau slogan est « Français, réveillez-vous ».
Oui, c'est un slogan que vous pourriez avoir vous aussi. Français, réveillez-vous pour une matinale radio. Hein, joli métis, ça ne sonne pas mal.
Bon, allez, oui.
Note-le sur ton petit papier. Oui, oui.
Alors, papier. Les observateurs politiques vous ont trouvé plus détendu. Vous avez quand même ressorti vos classiques sur l'immigration, hein, dimanche.
Mais mes classiques sur l'immigration, voilà. Alors, on me critique parce que... Non, mais écoutez, je suis obligé. Et madame, et lorsque vous allez voir Monsieur Bruel,
oui.
Et qui ne vous chante pas Place des Grands Hommes, vous êtes déçus.
Hein,
eh bien, moi, c'est pareil. Je sors mes standards. Voilà. Barbarie qui s'installe, immigration anarchique, été meurtrier, agression de poney. J'ai tout mis. Voilà, une sorte de bouillabaisse, n'est-ce pas ? Même moi, je me suis fait peur en m'écoutant, je veux dire.
Par contre, vous n'avez jamais utilisé le mot d'ensauvagement que vous avez emprunté, Gérald Darmanin.
Non, il ne m'a pas emprunté. Dites les mots.
Quoi ?
Les mots ont leur valeur et leur importance. Piqué, il m'a piqué,
oui,
vous voulez dire.
Oui, bon, c'est pareil.
J'ai d'ailleurs prévenu, non pas Copy Comics, mais Copy Facho. Voilà. mais on a de l'imagination, vous l'aurez remarqué, de l'imagination au Rassemblement National. La semaine dernière, j'avais inventé, vous en souvenez peut-être, la tagination et la couscousisation de la France. Alors, je suis en train de travailler sur un nouveau concept. Vous me dites ce que vous en pensez.
C'est quoi ?
C'est la mosquéisation.
Oui, oui.
Et également, c'est assez nouveau, c'est un côté Saint-Maclou, la tapis-berbérisation.
La tapis-berbérisation.
C'est pas facile à dire, mais je l'ai passé. De la société, de la France. Allez, je vais vous laisser. Au revoir
à tous.
Au revoir aux jolis métis, au revoir au docteur. Il faudra prendre le temps de m'ausculter la prochaine fois. Un cher Tony Abdallah.
Non, pas Tony. Jimmy Mohamed. Oh là là, Tony Abdallah.
Merci Nicolas Cantelou et à demain. Merci Julie, évidemment, et les auteurs de Nicolas. Oui. Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe 1.fr. 8h58, Philippe Vandel est là. Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va démarrer par notre info média du jour, le documentaire Choc de France 5. Tu deviendras hétéro, mon fils, sur les thérapies de conversion. C'est des parents qui inscrivent leur enfant pour qu'ils deviennent hétéro, évidemment sans leur accord. C'est pas dans les pays du tiers-monde, c'est aux USA en 2020. Caroline Benaroche, la réalisatrice, sera avec nous. On aura aussi Gaspard Ganzer, ancien communicant de François Hollande, ancien candidat à la mairie de Paris. Il fait sa rentrée à la télé, pas n'importe où, avec Cyril Hanouna dans l'émission Balance ton poste. Pas franchement ce qu'on attend d'un énarque. On lui demandera pourquoi il est allé là. Et puis enfin, l'humoriste et comédien Harry Habitant, pour son rôle dans une fiction de M6, Apprendre à t'aimer, il incarne un papa qui découvre à la naissance de sa fille qu'elle est porteuse de trisomie 21 et il dit de ce rôle que c'est son plus beau.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h, c'est bien sûr sur Europe 1. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée, un joli mardi. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Thank you.